Terminé. Alors, je vous propose que nous commencions cette séance par l'appel, comme de tradition, et j'interviendrai après au début de la séance.
Bonsoir à tous. Jean-Pierre Barnaud.
Présent.
Jacques Driche.
Présent.
Anne-Marie Vialatou.
Présent.
Didier Trémoureux.
Présent.
Sophie Lemonnier.
Présent.
Didier Storez.
Présent.
Christine Courtois.
Présent.
Brice Châtel.
Annie
Pelé-Chiffrine est excusée et représentée par Madame Courtois, Félicia Boisnoc,
présent.
Jean-Louis Poujol,
présent.
Jean-François Fabre,
présent.
Richard Delamussia,
présent.
Jean-Jacques Le Tarnec,
présent.
Martine Lerfel, Denis Fasanaro est représenté par Madame Valérie Michel. Valérie Michel,
présent.
Françoise Trouville est absente et représentée par Monsieur Driche, Christiane Cornu. Véronique Glover,
présent.
Nathalie Paolucci, Samira Guéroumi, Teresa Losso,
présent.
Pierre-Alexandre Beau,
présent.
Hamza Mokhtari,
présent.
Michael Assous,
présent.
Jean Rapti,
présent.
Marie-Christine Diringer,
présent.
Jean-Luc Doublet est représenté par Madame Grandjean, Laurence Grandjean, Emmanuel Pupeau,
présent.
Laurence Grandjean, Karine Bordui et Oriane Loye.
En introduction de ce conseil, je voulais d'abord vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir, puisque on demande finalement aux élus une présence dans un lieu qui les expose à plus de 10. C'est ce qui a été prévu, ce qui n'était pas le cas dans le précédent confinement. Donc, je sais que la situation actuelle est difficile pour tout le monde et je remercie tous les présents. Alors, je voudrais dire aussi que, bien entendu, dans ce contexte très particulier que nous connaissons, exprimer une pensée pour les commerçants qui souffrent tout particulièrement dans cette période et auxquels nous apportons tout notre soutien, en particulier parce que nous considérons que la mesure qui a été prise qui, d'une certaine manière, maltraite les petits commerçants ou certains indépendants, est injuste, puisque, dans le même temps, les grandes surfaces restent ouvertes. Il est difficile de démontrer que les grandes surfaces sont plus dangereuses que les librairies ou les commerces de vêtements dès lors qu'une protection sanitaire est prise. C'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre de maires, du territoire, j'ai écrit au Premier ministre pour attirer son attention sur la situation de ces commerçants. Et ça concerne d'ailleurs l'ensemble des maires du territoire, s'est associé à ce courrier. Alors je voudrais remercier aussi Madame Losso, Monsieur Mokhtari et Monsieur Beau qui se sont associés pour la mise en œuvre d'une organisation qui faciliterait, si les mesures n'étaient pas prises, les mesures d'ouverture n'étaient pas prises, et même si des mesures d'ouverture étaient prises, la situation de beaucoup de ces petits commerces, dont on sait qu'ils sont au bord du dépôt de bilan pour un très grand nombre d'entre eux. Alors, cela ne me fait pas oublier l'ensemble des autres élus qui sont mobilisés quotidiennement pour les Canavéroises et les Canavérois. Évidemment, nous ne pouvons que tous nous associer pour avoir une pensée pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce virus. Ils sont encore plus nombreux que lors de la première vague. Il y a peut-être moins de malades, mais l'addition des personnes concernées se fait plus grande à mesure que le temps passe. Comme lors du premier confinement, la municipalité s'est mobilisée, et notamment, dès qu'il a été décidé, de faire porter un masque pour les enfants à partir de 6 ans, l'éducation nationale, malheureusement, ne fournissait pas de masque, laissant cette charge aux familles. Donc nous avons souhaité en fournir aux élèves de Chennevières. De même que nous avons également essayé d'aider, comme nous le pouvions, les familles, particulièrement les familles les plus démunies, qui souvent ont des difficultés financières pour l'acquisition des masques. Donc nous nous retrouvons ce soir dans un pour un conseil municipal qui s'inscrit dans des conditions un peu particulières. Alors, je forme le vœu, mais peut-être est-ce un vœu un peu difficile à atteindre, que dans ce contexte particulier, on évite des commentaires qui sont sans doute destinés à tirer le chaland sur les réseaux sociaux, mais que je trouve choquants. Je constate, par exemple, que j'ai ici un message sur Facebook qui traduit bien cette déformation de la réalité. C'est facile, évidemment, sur Facebook de dire n'importe quoi. Chacun sait ça et chacun mesure les conséquences que ça peut avoir. Mais je lis que Jean-Pierre Barnot a décidé que la séance ne serait pas publique en raison de la situation sanitaire. C'est évidemment faux. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est une décision du gouvernement qui est relayée par le préfet, qui est tout à fait explicite. Par conséquent, vouloir m'attribuer cette décision, on voit bien le but qu'il y a derrière, mais enfin, on pourrait, je crois que tout cela n'a pas beaucoup de sens dans une période aussi difficile. Donc, je me permettais de faire cette observation, sachant que je connais les aléas de la vie politique, mais enfin, on pourrait espérer un peu plus de dignité dans ces affaires. J'utilise le mot qui me semble le plus juste. D'autre part, bon, chacune des personnes qui sont ici le savent, mais à plus forte raison une conseillère régionale, à plus forte raison une directrice générale des services. Donc, pourquoi pas écrire n'importe quoi sur Facebook, mais enfin, il y a des limites. Et je tenais à les souligner. Alors, vous avez posé la question, mais nous n'avions pas attendu votre question pour penser à à la transmission de ce conseil. Donc, ce conseil sera transmis sur le site internet de la ville, puisqu'il sera enregistré, comme c'est le cas général. Simplement, là, l'enregistrement qui habituellement est réservé aux élus, hein, comme c'était le cas dans la précédente mandature, l'enregistrement sera donné à l'ensemble de la population. Voilà le point que je voulais faire en début de conseil. Donc je vous propose que nous passions au conseil lui-même, avec d'abord la désignation d'une secrétaire de séance. Je propose Madame Paolucci. Alors, Madame Paolucci est d'accord. Qui est favorable? Très bien. Qui s'abstient? Très bien. Je crois que vous avez pu noter les... Je vous remercie. Alors, le premier point à l'ordre du jour, il s'agit donc de l'approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil municipal du 23 juillet 2020. Je propose que nous passions au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie. Alors, nous allons, le point 3 concerne donc la commission de l'élection des membres à la commission de services publics locaux. Donc, vous avez une explication sur dans la délibération sur les fonctions de cette commission. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très clairement expliqué. Donc, cette élection est au scrutin secret. Et par conséquent, les membres titulaires doivent informer le service des marchés publics. Alors, ce qui est prévu, c'est donc le nombre de conseillers qui ne souhaitent pas. Il demande au conseil municipal de procéder à des sélections, ainsi qu'il suit constitution d'un bureau de vote. Il faut d'abord nous constituer un bureau de vote composé du maire et de deux assesseurs qu'il convient de désigner parmi les conseillers municipaux. Nous avons commencé à prendre une habitude, donc nous allons continuer. Les habitudes sont utiles. Donc nous allons prendre les deux plus jeunes conseillers municipaux qui vont donc je propose comme assesseur. Donc il faut voter sur ce point. Donc nous allons voter pour la désignation du bureau. Qui est favorable à cette proposition? Donc je suis président. Et il y a deux assesseurs qui sont M. Châtel et M. Beau. Et Assous. Je me souviens pas de l'âge des conseillers municipaux dans le détail. Voilà, donc je vous propose de voter. Qui est favorable ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait, je vous remercie. Donc, une urne, alors, donc, il y a combien de candidats ? Une liste ? Voilà. Il y a deux listes. Parfait, donc je vais vous donner lecture des listes. Donc, pour le groupe Ensemble, pour Chennevières, passionnément, titulaire proposé, donc, Mme Anne-Marie Vialatou, M. Didier Trémoureux, Mme Sophie Lemonnier, Mme Véronique Glover, Mme Teresa Losso. Suppléant, M. Didier Storez, Mme Félicia Boisnénoc, M. Jean-François Fabre, Mme Christine Courtois, M. Brice Châtel. Et donc une seconde liste pour le groupe pour un avenir ensemble à Chennevières, Mme Borduit, M. Poupeau, Mme Loye, M. Doublé, et comme suppléant, Mme Diringer, Mme Grandjean, M. Rapti. Je vous rappelle deux points importants. D'abord, les membres élus seront tenus au secret des délibérations. C'est un point qu'il faut rappeler. Et le deuxième point, c'est que l'élection se fait à la proportionnelle au plus fort reste. Alors, voilà.
Madame Loye a voté. Madame Borduit a voté. Madame Grandjean a voté. Monsieur Doublet a voté. Monsieur Pupeau a voté. Madame Diringer a voté. Monsieur Rapti a voté. Monsieur Assous a voté. Madame Cornu a voté. Monsieur Beau a voté. Madame Glover a voté. Monsieur Poujol a voté. Monsieur Châtel a voté. Madame Lemonnier a voté. Monsieur Drich a voté. Madame Trouville a voté. Monsieur Barneau a voté. Madame Vialatou a voté. Monsieur Trémoureux a voté. Madame Courtois a voté. Madame Pelé-Chiffrine a voté. Monsieur Storez a voté. Madame Boinoc a voté. Monsieur Delamussia a voté. Madame Guéroumi a voté. Monsieur Mokhtari a voté. Madame Losso a voté. Monsieur Fabre. Pardon, Monsieur Le Tarnec, excusez-moi.
Avec le masque, encore plus.
Ouais, a voté. Madame Lerfel a voté. Monsieur Fabre a voté. Madame Michel a voté. Monsieur Fasanaro a voté. Madame Paolucci a voté. On invite le président et les assesseurs à les dépouiller, s'il vous plaît. Alors. Ont été élus donc membres titulaires Madame Vialatou, Monsieur Trémoureux, Madame Lemonnier, Madame Glover, Madame Borduy, membres suppléants Monsieur Storez, Madame Boinoc, Monsieur Fabre, Madame Courtois et Madame Diringer. Vous voulez donner le score?
Je l'ai déjà donné tout à l'heure, je viens répéter. Bien répété, 26 voix et 7 voix. Avec un quotient électoral qui est à 6,60, du fait du système au plus fort reste. Le résultat s'explique. Très bien. Donc, je vous remercie. Et nous allons donc passer au point 3. Nous avons suivi les recommandations de Mme Borduy pour précéder, si bien entendu l'ensemble des membres du conseil municipal le souhaitent, un vote sur... le fait que nous votions, dès lors qu'il n'y a pas de scrutin de liste, si nous ne voulons pas que la soirée s'éternise dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Nous avons proposé que l'élection se fasse à main levée. Il est souhaitable qu'il y ait l'unanimité, je crois que c'est obligatoire qu'il y ait l'unanimité. Une seule personne peut le refuser, moyennant quoi ça nous fera une dizaine de votes. Sans que ça présente un intérêt manifeste, me semble-t-il, surtout dans le contexte actuel. Alors, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est favorable ? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 4. Alors, il s'agit de l'élection au comité stratégique du Grand Paris Express. Peut-être un mot d'information pour ceux qui ne... Je ne saurais pas très bien à quoi correspond cette instance. Vous savez qu'au moment où le Grand Paris a été lancé, il était d'abord lancé pour des questions de transport. Et ce n'est qu'après qu'est apparue la métropole reprenant le terme de Grand Paris, ce qui n'a pas empêché la première structure de continuer d'exister en se réunissant périodiquement pour aborder les questions relatives au transport. Les collectivités y sont représentées. Cette instance travaille évidemment en relation avec la métropole. Voilà, nous proposons comme candidat Monsieur Driche et comme titulaire et Monsieur Delamucia comme suppléant. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable à l'élection de M. Driche comme titulaire et de M. Delamucia comme suppléant ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne l'association 5Com. Donc, il s'agit, vous savez, nous avons adhéré à l'association 5Com qui travaille avec un certain nombre de syndicats et notamment le CIGEF auquel nous sommes adhérents. L'association 5Com a donc pour but d'apporter, avec l'aide d'un outil informatique, une aide à la gestion des travaux de voirie dans les communes adhérentes au CIGEF. Donc, l'adhésion au CIGEF emporte l'adhésion au 5Com. Alors, nous proposons M. Trémoureux comme titulaire et M. Delamucia comme suppléant. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est favorable à l'élection de M. Trémoureux et de M. Delamucia ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne ce qui s'appelait autrefois la SAERP et dans lesquelles la ville doit être représentée. Donc le nom nouveau de la SAERP, c'est Île-de-France Construction Durable. La fonction de cette organisation nous est connue puisque nous avons eu l'occasion de travailler avec elle, donc je ne veux pas revenir là-dessus, chacun le sait. D'autre part, nous avons des projets, un projet à court terme et un projet à moyen terme l'un sur l'école du Moulin, l'autre sur l'école Rousseau, qui s'inscrira dans le projet d'entrée de Ville-Nord, sur lequel je serai amené à revenir au cours de cette séance. Donc, on doit donc désigner un représentant. Et je propose M. Driche, qui est favorable, qui s'abstient. Très bien, je crois que c'est clair. Ensuite, le groupement d'intérêt public maximilien. Donc, peut-être un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas ce groupement. Il s'agit donc de rendre les marchés publics accessibles par l'outil informatique et l'usage numérique. Vous savez que maintenant, on répond aux marchés publics, aux appels d'offres, par cette voie informatique. Et on a jugé bon de donner le nom de Maximilien à cet outil, à ce groupement d'intérêt public et à la plateforme correspondante. Voilà, donc nous proposons M. Pierre-Alexandre Beau comme titulaire et M. Hamza Mokhtari comme suppléant. Y a-t-il d'autres candidats ? Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Alors, le point numéro 8 concerne la commission communale des impôts directs. Il s'agit donc, à la suite du renouvellement du conseil municipal, de désigner des commissaires de la commune, donc pour une nouvelle commission communale des impôts directs. Je vous rappelle que cette commission a notamment pour vocation de s'assurer des bases de l'imposition, le taux étant voté au conseil municipal. Les bases peuvent être contrôlées par cette commission communale des impôts directs, qui a une série d'autres fonctions également, mais c'est des fonctions principales. Donc, vous avez une liste de noms qui vous est proposée, des titulaires et des suppléants. Et donc, il n'y a pas d'observation. Je vous propose que nous... Il y a une observation, M. Pupot, oui.
Oui, deux observations. La première, c'était peut-être que vous auriez pu solliciter l'opposition pour proposer quelques noms, parce que, en principe, les conditions pour être membre de cette commission, c'est d'être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la dite commission. Quand je vois la liste de noms, je vois Madame Fabre, Monsieur Foussa, enfin des gens qui sont autour de vous, voire des gens qui portent le même nom de famille. Et moi, je suis très étonné parce que chez moi, par exemple, on n'a pas tous les mêmes compétences, et c'est tant mieux. Mais ça me surprend un petit peu que, nous n'ayons pas été sollicités pour vous proposer, nous aussi, des personnes qui pourraient contribuer et apporter leur lot de compétences à cette commission. Et deux, je m'interroge sur le fait que on soit plutôt dans un cercle restreint autour de vous.
Je comprends votre interrogation, Monsieur Pupot, mais je n'ai fait en cela que suivre la jurisprudence de toutes les municipalités précédentes.
Par conséquent, je serai preneur de cette jurisprudence.
Vous pourrez peut-être la changer un jour, qui sait. Mais pour le moment, c'est celle qui a été appliquée à Chennevières. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable, qui est pour qui est favorable, donc, qui s'abstient? Alors, Monsieur Pupon, vous ne vous abstenez pas, finalement? Non. Contre. Bon, très bien, je vous remercie. Point numéro 9, il s'agit d'une association à laquelle nous avons adhéré il y a maintenant, je crois, 2 ans, qui rend de services importants à la ville pour les activités de vacances et de loisirs, en particulier pour les jeunes enfants. Et donc, nous proposons Madame Vialatou. Il y a d'autres candidats ? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable à la candidature de Madame Vialatou ? Qui qui s'abstient. Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne la désignation de deux représentants au marché alimentaire. Il s'agit donc d'une commission paritaire liée au marché du centre-ville. Nous proposons Madame Teresa Losso et Monsieur Brice Châtel. S'il n'y a pas d'autres candidats, qui est favorable à ces candidatures ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Le point numéro 11 concerne le. Pourquoi il y a deux candidats ? Parce que c'est un seul conseil maintenant. Je mets une petite seconde. Oui. Alors, simplement, aujourd'hui, le lycée a fusionné. Enfin, les lycées se sont rapprochés. Le lycée d'administration, le lycée Chamel de Champlain, qui comportait autrefois un lycée général et un lycée technologique, un lycée professionnel. Donc, il y a deux représentants, puisqu'il y a une seule instance maintenant. Autrefois, on désignait dans les deux lycées. Donc, nous proposons la candidature de Mme Boisselenoc comme titulaire et de M. Storez comme suppléant. Qui est favorable ? Mme Borduy a une intervention.
Oui, j'ai une question qui n'a rien de personnel à l'intention de Mme Boisselenoc, mais il me semble qu'elle est représentante des parents d'élèves au sein du lycée. Donc, elle ne peut pas avoir les deux casquettes au sein du CA.
Alors, Mme Boisselenoc va pouvoir vous répondre.
Alors, cette année, je ne suis pas représentante au sein du lycée. Pardon ?
Vous étiez bien sur une liste.
Je suis effectivement sur la liste de la PEP et je ne fais pas partie du comité.
Vous n'avez pas été élue et n'êtes même pas suppléante ?
Ah non, pas du tout. Donc je fais partie d'aucune commission, d'aucun conseil d'administration, voilà.
Stenock était l'année dernière en tant que représentant de parents d'élèves. Là, il s'agit de l'élire en tant que représentant de la municipalité. Monsieur Storez était déjà suppléant, mais il y avait à l'époque quatre élus. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Très bien, je vous remercie. Concernant maintenant, point numéro 12, le collège Molière. Il s'agit de, là aussi, de désigner d'élire un titulaire et un suppléant. Nous proposons Madame Vialatou comme titulaire et Madame Boisselenoc comme suppléante. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Eh bien, Monsieur Apti n'a pas voté, me dit-on ? Ah bon, ben j'ai mal vu. Alors, donc, vous avez, l'essentiel, c'est que tout le monde ait voté. Collège Boileau, même proposition, Madame Vialatou et Madame Boisselenoc, comme suppléante. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Alors, maintenant, il s'agit de l'association de prévention de soins et d'insertion. Donc, d'une instance qui a vocation à s'occuper, à gérer les centres médicaux psychopédagogiques et d'action de formation du personnel du secteur social, médico-social et de la santé mentale. Nous proposons la candidature de M. Brice Châtel. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Point numéro 15, il s'agit donc de l'association Visa 94, qui elle aussi a pour vocation la santé publique, mais qui s'inscrit notamment la lutte contre la prévention, l'accès à la prévention contre le sida, la toxicomanie et les différentes addictions et risques associés, et qui s'inscrit très largement pour Chennevière dans le cadre de la politique de la ville. Donc nous proposons la candidature de Madame Lemeunier. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 16. La mission locale des Bords de Marne, nous proposons la candidature de Madame Boisnenoc. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Oui, très bien, merci. Point numéro 17, il s'agit du CIFUREP. Nous devons désigner un titulaire et un suppléant. Nous proposons la candidature de M. Fabre comme titulaire et de Mme Courtois comme suppléante. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 18. Il s'agit du syndicat intercommunal pour la gestion de maisons de retraite publique, le Vieux Colombier. Il s'agit de désigner deux représentants. Nous proposons Mme Courtois et Mme Glover. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 19. Il s'agit donc de désigner un correspondant défense. Vous avez... dans la délibération, une explication de ce qu'est le correspondant défense, et nous vous proposons la candidature de M. Le Tarnec. M. Pupo souhaite s'exprimer.
Oui, je souhaiterais porter ma candidature également, s'il vous plaît, M. le maire.
Nous avons deux candidats, M. Le Tarnec et M. Pupo. Alors, nous allons donc voter. Je vais commencer par M. Le Tarnec, qui est favorable. Monsieur Pupo, pardon, je suis désolé. Six voix pour Monsieur Le Tarnec et sept voix pour Monsieur Pupo. Alors, le point numéro 20 est rapporté par Monsieur Poujol. Il s'agit de la convention de partenariat et le dispositif PASCOP.
Alors, le partenariat COP réunit les villes de Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie et Noiseau. Ce partenariat permet de créer une passerelle entre les établissements culturels des villes adhérentes par une dynamique et une concertation des activités respectives. Un PASCOP qui accorde une réduction identique sur les structures qui proposent des spectacles, une offre culturelle élargie sur un territoire cohérent. Compte tenu de la réussite de cette organisation et de son bien fondé, il est proposé de renouveler ce partenariat pour une durée de 3 ans à compter de la saison 2020-2021. Les PASCOP seront commercialisés par les 5 villes ou structures de Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie et Noiseau. Le PASCOP vendu 10 euros accordera toujours une réduction de 5 euros sur les spectacles concernés. Une nouvelle convention de partenariat doit être signée pour approuver ces dispositions. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat COP qui réunit 5 villes précitées, est mise en place une carte individuelle PASCOP permettant de bénéficier d'un tarif réduit. Les spectateurs peuvent acquérir une carte individuelle auprès des structures partenaires COP qui leur permet de bénéficier d'une réduction de 5 euros sur les pleins tarifs des spectacles éligibles. Ce dispositif a été étendu à la billetterie du multiplex Ciné-Pincevent en 2019 pour les retransmissions des opéras seulement. Afin de renouveler ce partenariat, une convention doit être signée pour approuver ces dispositions entre les villes partenaires COP et le multiplex Ciné-Pincevent. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver ce partenariat COP pour une durée de 3 ans à compter de la saison 2020-2021, ainsi que la convention du dispositif PASCOP et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes et tous les documents y afférents.
Je voudrais dire quelques mots en complément de ce qui vient d'être lu sur cette délibération. Pour vous dire que nous sommes heureux à Chennevières d'avoir été à l'initiative de cette démarche qui permet en effet... meilleure accession à la culture pour les personnes, les seniors, l'accès au théâtre et, sauf très rare exception, les spectacles sont au prix de 10 euros Et pour ceux qui s'abonnent à ce PASCOP, il est possible de bénéficier d'une réduction identique dans toutes les collectivités qui ont été citées. J'ajoute que nous sommes satisfaits de voir que la convention avec le Ciné Pincevent, que nous sommes aussi assez heureux d'avoir sur notre commune, ça n'a pas été si simple, eh bien, cette convention est maintenue avec le Ciné Pincevent pour les transmissions d'opéra. Donc, tout cela s'associe avec d'autres démarches, comme Culture au cœur, qui permet des personnes de participer, de faire partie du public sans avoir à payer, d'autre part aux conventions qui sont passées avec l'espace socioculturel. Donc ce sont autant d'occasions d'accéder à la culture et nous nous félicitons que ce soit dans le cadre d'une démarche commune avec les collectivités voisines. Madame Louaille.
Oui, bonsoir. J'avais une question très pratique. Je voulais savoir en fait si le PASCOP était prolongé dans sa validité du fait de l'année 2020 entre le confinement et les travaux au théâtre Roger Lafaille. S'il y avait une prolongation pour ceux qui ont acheté le PASCOP en début d'année, par exemple. Je sais que c'est prévu sur d'autres villes, donc je me posais la question si c'était
valable. De toute façon, c'est une décision qui est prise collectivement. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de villes qui procèdent d'une façon et d'autres d'une autre. Donc, il y aura certainement...
Et donc,
si vous voulez, je peux répondre sans être éventuellement interrompu. Et comme disait, donc, je trouve ça un peu désagréable. Mais bon, chacun ses méthodes, hein, chacun ses techniques. Il y en a qui communiquent sur Internet pendant le conseil municipal, qui visiblement ne s'intéressent pas tellement aux délibérations. D'autres qui interrompent celui qui parle. Donc, bien entendu, nous tiendrons compte de cette situation sanitaire particulière. Nul ne sait aujourd'hui si la saison pourra reprendre, à Chennevières comme ailleurs. Puisque, pour le moment, les théâtres personne ne connaît la durée. Donc, il est difficile de vous apporter une réponse ce soir pour cette raison. Mais bien entendu... la période où les théâtres ne peuvent pas être fréquentés, ne peut pas être prise en compte dans l'abonnement.
Et en plus, le théâtre de Chennevières est en rénovation jusqu'au mois de mars. Voilà.
Très bien. Je vous propose de passer au vote. Il s'agit, je vous rappelle, de voter la convention de partenariat et le dispositif PASCOP. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Personne, puisque je crois qu'il y a unanimité. Bon, non. Je vous remercie. Et je me félicite de cette unanimité sur l'action culturelle dont on avait constaté qu'elle était aussi appréciée des Canavérois, puisqu'on avait une augmentation de fréquentation de plus de 60% au théâtre entre le début et la fin de la précédente mandature. Alors, nous passons au point 21. Je vais passer la parole à Madame Lemonnier. Concernant le bilan des actions contre Advil dans un premier temps, puis ensuite elle pourra parler du programme d'action dans la délibération suivante.
Merci Monsieur le Maire. Alors, le contrat de ville permet de financer des actions menées sur le quartier du Bois-l'Abbé. Il a pour objectif de réduire les inégalités sociales. Il a été signé par le préfet, par la communauté d'agglomération du Haut du Val-de-Marne, ainsi que par les villes de Chennevières et Boissy-Saint-Léger. Il s'articule sur trois axes, la cohésion sociale, le cadre de vie, et renouvellement urbain, ainsi que le développement économique. Alors, pour 2019, c'est dans ce cadre que 29 actions ont été menées à Chennevières, dont les bilans vous sont détaillés en annexe. La ville de Chennevières a mené 14 actions, 9 actions ont été portées par des associations, 5 actions par l'établissement public territorial du Grand Paris Sud-Est Avenir GPSEA, et une action par le Centre communal d'action sociale. Donc le CCAS. Alors, il vous est demandé d'approuver cette et d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s'y afférents.
J'ai un don tact. Effectivement, dans un don tact aujourd'hui, on voit.
Je parle sous la vigilance pardon. C'est pour le bilan, ça, c'est ça.
Oui.
Et donc, il s'agit quand même de voter, puisque nous devons constater que la délibération a bien eu lieu, si vous n'avez pas bien entendu de questions complémentaires à poser sur le bilan. Et donc nous voterons pour constater que la délibération a eu lieu. Ça se pratique comme cela maintenant, pas dans toutes les collectivités, mais c'est la règle. Donc, y a-t-il des questions, des observations, des demandes ? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui constate que la délibération a bien eu lieu ? Qui estime qu'elle n'a pas eu lieu ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Et maintenant, donc, le programme d'action 2020.
Non, c'est exactement la même chose.
Donc, oui, les actions sont reconduites.
Voilà, et cette, voilà pour 2020. Pas d'action nouvelle.
Oui, peut-être en complément.
Et je, alors,
il y a une ou deux actions nouvelles. Quand
oui,
même.
Et c'est dans ce cadre qu'en 2020, la ville de Chennevières a inscrit 30 actions, dont 12 actions portées par les services municipaux, 9 financées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, 2 par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et 1 par la Direction départementale de la cohésion sociale. 3 actions portées par le Centre communal d'action sociale, 7 actions portées par le GPSEA et 8 actions portées par des associations. Voilà, monsieur le maire.
Oui, merci. Alors, je n'ai pas posé les questions avant parce que c'était lié entre le bilan et puis le nouveau programme d'action 2020. Enfin, sachant qu'il est terminé, en fait. On s'interrogeait juste, il y avait une action, une fiche bilan d'action pour prévenir le décrochage scolaire sur la programmation 2009, qui n'avait pu être menée, manifestement, et donc il était noté qu'elle serait reportée en 2020. Et en fait, on l'a pas vue dans le programme d'action 2020. Donc je m'interrogeais juste, voilà, si, pourquoi elle n'a pas pu être menée, s'il y avait eu des problèmes sur ce sujet.
Deux points sur les actions nouvelles. Il faut quand même insister sur les actions nouvelles, puis je répondrai à votre question. Donc, les actions nouvelles concernent l'accès à la culture, justement. Je rejoins le sujet que nous avions évoqué précédemment. L'action de prévention santé pour les seniors. Alors, vous nous dites effectivement que ce programme 2020 arrive tard, mais vous savez que ce programme n'arrive qu'à partir du moment où l'État a validé et que cette année, comme on ne peut pas l'ignorer, il y a eu un certain nombre de retards. Donc, il arrive que des actions portent un nom un peu différent, mais ce sont des actions qui sont reconduites. Il y a une action, je vous invite à le voir, et sinon je laisserai peut-être la parole pour compléter éventuellement, mais il y a une action d'accompagnement à la scolarité. C'est l'action numéro 3, action portée par la ville. Est-ce que vous avez un point à faire ?
Elle existait déjà, celle-ci.
Oui, mais c'est une action qui concerne le même sujet. Donc peut-être que vous pouvez nous éclairer.
C'était deux actions en 2019, et là, du coup...
Oui, mais ça ne veut pas parce qu'il y a deux actions en 2019 et qu'il y a une action en 2020 que nous accordons moins d'intérêt au sujet. Simplement, ça mérite une explication plus technique, donc je laisse la parole à Mme Benteja.
Bonsoir. En fait, dans la programmation, ce que vous voyez à chaque fois, ce sont les actions qui sont financées pour l'année en cours. Donc ça veut dire qu'en 2019, l'action a été financée, elle n'a pas été réalisée, elle est reportée sur l'année 2020. Et donc du coup, elle n'apparaît pas dans la programmation 2020 parce qu'elle n'est pas financée en 2020. Mais elle doit être réalisée.
Dans toute la mesure où le contexte sanitaire le permet.
Oui, donc c'est bien deux actions différentes, puisque l'accompagnement à la scolarité du décrochage, c'est pas la même chose. Mais donc, si vous... du coup, c'est juste dommage parce qu'en fait, du coup, on n'a pas la réalité de ce qui est fait par les services.
Bah écoutez, en fait, vous avez quand même beaucoup d'informations. Je pense que vous ne pouvez pas vous plaindre, vu l'épaisseur du dossier, de manquer d'informations. Ce qui est certain, c'est que nous attachons de l'importance au soutien scolaire, que nous sommes encouragés en cela par l'État, et que, d'autre part, bien entendu, le contexte sanitaire, chacun le comprendra, peut rendre plus difficile un certain nombre d'actions. En ce qui concerne le soutien scolaire, il y a ces actions, il y a aussi d'autres actions qui sont menées par différentes associations ou au PRIJ en relation avec la politique de la ville également. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Cette fois-ci, il s'agit d'un vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 23, Monsieur Trémoureux en est le rapporteur. Il s'agit du règlement local de publicité intercommunale et il s'agit d'un débat sur les orientations. Monsieur Trémoureux.
Merci, Monsieur le maire. La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 a indiqué que les règlements locaux de publicité adoptés avant le 12 juillet 2010 devraient être révisés avant le 12 juillet 2020. Mais la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a reporté cette date à 2 ans, soit le 13 juillet 2022, la possibilité d'élaborer un tel règlement à la condition que l'élaboration de celui-ci ait été prescrite avant le 13 juillet 2020. Enfin, l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à l'état d'urgence sanitaire a prorogé ce délai jusqu'au 25 octobre 2022. Il est précisé que la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité, dit RLP, est calquée sur celle des plans locaux d'urbanisme. La compétence a donc été transférée au territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, GPSEA, et est régie par le Code de l'urbanisme. Le règlement local de publicité de Chennevières a été approuvé par arrêté municipal du 29 janvier 1988. GPSA a prescrit l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale par délibération du Conseil du territoire du 26 septembre 2018 et a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation sur l'ensemble du territoire. Ces modalités, donc, c'est assurer un traitement cohérent de la publicité à l'échelle du territoire, ce qui n'est pas fait actuellement. Préserver l'attractivité économique et commerciale de l'ensemble du territoire, tout en veillant à ce que l'affichage respecte le cadre de vie, le paysage des communes membres. Maîtriser le développement des dispositifs publicitaires, notamment en entrée de ville, les zones d'activité commerciale et les principaux axes du territoire, en assurant une harmonisation des règles. Préserver les espaces à protéger pour des raisons paysagères, patrimoniales, remarquables. Et intégrer les exigences environnementales de la loi Grenelle 2. Donc, des modalités de concertation ont été établies. Un dossier de projet de règlement local de publicité intercommunale complété au fur et à mesure de la procédure sera mis à disposition du public dans chaque commune, membre, et au siège du GPSEA, accompagné d'un cahier destiné à recevoir les observations. Ce dossier sera également consultable sur un site internet de GPSEA. Des réunions publiques seront organisées tout au long de la procédure. Dans sa séance du 5 décembre 2018, le Conseil du territoire a déterminé les modalités de collaboration des communes. Conférence intercommunale des maires pour examiner le diagnostic du territoire. Organisation d'un débat sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunale au sein des conseils municipaux de chaque commune, ce qui est fait ce soir. Conférence intercommunale des maires pour examiner le projet de règlement local de publicité intercommunale soumis à enquête publique. Enfin, une conférence intercommunale des maires pour examiner les conclusions de l'enquête publique et valider le dossier de règlement local de publicité intercommunale. Les orientations concernant la publicité d'une part et les enseignes d'autre part ont alors été élaborées pour chacun des thèmes suivants. Les entrées de ville et les principaux axes routiers, les centres-villes et les centres-bourgs, les zones d'activité, les zones résidentielles. Pour ces orientations sont les suivantes. Elles sont décomposées en 4 strates. Orientation 1. Valoriser la qualité paysagère du territoire par les entrées de ville et les principaux axes structurants. Orientation 2. Améliorer l'image et l'attractivité des centres-villes tout en préservant la qualité paysagère des centres historiques. Orientation 3. Rendre lisibles et attractives les zones d'activité tout en conservant la dynamique commerciale. Orientation 4. Veiller à la qualité paysagère des secteurs d'habitation tout en y préservant le développement économique. Naturellement, chacune de ces orientations sont découpées en publicité et enseigne. Un débat sur les orientations générales du règlement local de publicité donc doit être organisé, ce qui est ce soir, Par la suite, 3 réunions publiques seront organisées par GPSEA début 2021 afin de présenter le projet de règlement au public. GPSEA arrêtera le projet de règlement et tirera les conclusions de la concertation. Le projet sera alors soumis aux personnes publiques associées et fera l'objet d'une enquête publique. Le document sera alors approuvé courant 2022, tel qu'il a été dit au départ. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue d'un débat sur les orientations générales du règlement local de publicité intercommunale.
Donc, vous l'aurez compris, d'une compétence qui a été transférée de la commune au territoire, mais ce qui n'exclut pas que les conseils municipaux, dans les mêmes termes évidemment dans chaque commune, soient sollicités et pour un avis, pour connaître. Donc c'est un don d'acte. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments? Désolée. Madame Borduy.
Oui, bonsoir, je vous remercie. Alors là, vous nous présentez un dossier sur lequel le conseil municipal doit débattre, mais en fait, enfin, on s'aperçoit que c'est juste une question là de pure forme dans le processus d'élaboration du RLP. Néanmoins, il est dit que ce qui précède ce débat, c'est une conférence intercommunale des maires à laquelle a été présenté un diagnostic du territoire. Donc peut-être que pour pouvoir débattre, on aurait pu avoir ce diagnostic, parce que finalement, là, pour débattre, on nous donne les grandes orientations et les grands principes d'un RLP. C'est pas véritablement un débat. On ne peut pas émettre un avis, donner des orientations. C'est des choses qui pourront éventuellement intervenir comme chaque administré pourra le faire lors de l'enquête publique. Donc, on n'est pas contre le fait, bien au contraire, de réglementer la publicité. Il faut le faire. Mais là, ce qui nous est demandé, c'est de prendre acte d'un débat, mais d'un débat sur la base de quoi, là, c'est assez compliqué.
Et éclairer un peu votre lanterne, Madame Borduy. D'abord, effectivement, il y a eu un certain nombre de réunions qui ont lieu au territoire. Et je vous invite à vous informer au territoire, puisque, encore une fois, ces discussions ne sont pas locales, mais intercommunales. Donc, ils relèvent, si vous voulez, de l'exécutif d'y participer. Je ne vois pas très bien, d'ailleurs, comment, dans les faits, si chacun des conseils, dans son entier, majorité, opposition de toutes les villes, se réunissait pour débattre des orientations communes, comment nous pourrions y arriver? Parce qu'on pourrait dire ça d'à peu près tous les sujets. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faudrait que les conseils municipaux participent, en quelque sorte. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Si c'est une question de consultation, tous les nombreux débats auxquels M. Trémoureux a participé, dans la précédente mandature, d'ailleurs, essentiellement, ont donné lieu à un certain nombre d'informations que vous pouvez très facilement obtenir, y compris pendant la suite de la procédure, au territoire. Oui, Madame Borduy.
Oui. Non, je ne dis pas qu'il faut que tous les conseillers municipaux des communes membres du territoire participent à toutes ces réunions. Évidemment, ce sont les conseillers communautaires et les exécutifs de chacune des communes. Mais là, on nous demande de débattre et ça fait partie de la procédure décidée par le territoire, donc par l'exécutif du territoire, sur l'association et la collaboration des communes qui demandent un débat au sein de chaque conseil municipal. Donc moi, je veux juste savoir sur quoi on débat.
Orientations qui sont proposées par le territoire, puisque c'est une compétence territoriale. Ce n'est plus une compétence communale. Je dirais que votre remarque pourrait être plus intéressante si c'était toujours une compétence communale. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Par conséquent, il y a des réflexions qui sont menées au sein du territoire, avec les représentants des exécutifs. Ces réflexions, encore une fois, sont transparentes, et ce n'est pas aux conseils municipaux de les faire connaître aux conseillers municipaux, c'est aux conseillers municipaux et aux groupes de s'informer au territoire. Voilà ce que je peux vous répondre, parce que sinon, toutes les compétences territoriales devraient donner lieu à des débats, pourquoi pas ? Ça serait une évolution. Aucune commune ne fait cela. Maintenant, on peut imaginer qu'un jour, peut-être, il y ait une sorte de bilan de l'action du conseil territorial dont on mesure bien qu'il est de plus en plus, elle est de plus en plus importante, hein. Et donc, on pourrait imaginer, mais pas spécialement sur ce sujet, pas le sujet unique, hein.
Non, enfin, je crois que, enfin, là, vous comprenez pas le sens de mon intervention. Je sais pertinemment que c'est de la compétence du territoire. Je vous dis juste que dans la note de synthèse et dans le cadre de la procédure, il y a écrit organisation d'un débat sur les orientations générales du RLP interco au sein des conseils municipaux de chaque commune. Donc c'est juste ça. C'est la procédure qui a été établie par le territoire. Donc en fait, le débat, c'est juste sur les quatre grandes orientations. Est-ce qu'on est d'accord avec ces quatre grandes orientations ou est-ce qu'on en envisage d'autres ?
Cela dans toutes les communes du territoire, et il ne peut pas être question d'en envisager d'autres, puisqu'il s'agit simplement d'une information, comme il y a beaucoup de dons d'actes qui sont donnés, puisque c'est une compétence du territoire, et qu'il n'est pas envisageable qu'il y ait un débat dans chaque conseil municipal, parce que sinon, il n'y a plus de territoire. C'est une compétence transférée.
J'entends bien, mais ce n'est pas une information, c'est un débat.
Eh bien,
c'est ce qui est indiqué
poser...
dans la note de synthèse.
Rien ne vous empêche, Madame Borduit, de poser des questions, si vous le souhaitez. Voilà, et encore mieux, de vous informer au territoire. Voilà, et donc, nous vous avons présenté nous avons présenté donc cette délibération. Nous vous proposons de voter pour savoir s'il y a bien eu une consultation du conseil municipal. Oui, c'est un don d'acte, mais on vote quand même, comme je l'ai expliqué, pour simplement justifier. C'est une nouveauté depuis 2 ans. Il est prévu de simplement donner acte, et pour donner acte, il faut donner acte que la délibération a eu lieu. Voilà. Voilà. Donc, toutes les collectivités ne le font pas, mais certaines se font rabrouer. Donc, voilà. Qui constate que nous avons bien eu le débat? Très bien. Qui pense qu'on n'a pas eu de débat? Voilà. Nous n'avons pas eu de débat. Vous vous abstenez. Qu'est-ce que vous faites?
Dans le document qui nous est remis, là, pour marquer notre choix, il n'y a pas les cases. Alors, je pense qu'il faut vous mettre en accord avec vos documents.
Ben, vous rajoutez.
Non, je rajoute pas.
Ben, vous ne rajoutez pas.
C'est comme vous. C'est vous le président, c'est à vous de prévoir.
Oui, oui, très bien. Soyez moins désagréable, ça sera toujours plus.
Pas de raison de l'être agréable.
Ah bon, bon, ben, écoutez, alors soyez désagréable si ça peut vous détendre. Très bien. Donc, nous avons voté. Vous n'avez pas pris part au vote, je suppose. C'est la conclusion que j'en tire. Et vous expliquerez ça, vous notifierez ça dans votre feuille, comme vous l'entendez. Point numéro 24, Monsieur Delamucia, il s'agit d'approuver la charte des espaces naturels du Val-de-Marne.
Merci, Monsieur le Président. Par délibération du 15 février 2016, le Conseil départemental du Val-de-Marne a classé en espace naturel sensible la plaine des Bordes, compte tenu de son intérêt écologique, paysager et sa vulnérabilité dans son contexte urbain. Les départements sont en effet compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles en raison de leur intérêt et ou de leur vulnérabilité. Le schéma départemental des espaces naturels sensibles, adopté à l'Assemblée générale départementale du 18 juin 2018, fixe pour les 10 prochaines années les grandes orientations. Améliorer la connaissance des espaces naturels du Val-de-Marne, conforter l'intégralité des espèces naturelles face à la pression foncière, concilier les enjeux de préservation des espaces naturels et de développement du territoire, assurer la gestion et la conception des espaces pour favoriser la valeur paysagère des sites et de la biodiversité, développer et consolider des partenariats plus actifs autour des espaces naturels et de la biodiversité, contribuer à la découverte et à la protection des sites à travers des missions d'accueil, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, contribuer au maintien d'une trame naturelle et paysagère de qualité support de biodiversité, favoriser la biodiversité et la fonctionnalité écologique au sein des espaces agricoles, renforcer la communication. Le département a engagé en 2019 une concertation auprès des acteurs institutionnels et associatifs afin de partager les enjeux du territoire, faire aménager des actions partenariales et impulser la mise en place d'un réseau d'acteurs favorisant la préservation des espaces naturels et de la biodiversité. Ces échanges ont abouti à un regroupement autour de 4 thématiques constituant les 4 axes de plan d'action partenarial. Axe 1, trame naturelle départementale, mieux la connaître, la consolider et la développer pour en faire un support de biodiversité. Axe 2, faire vivre les espaces naturels sensibles et faire évoluer les pratiques, sensibiliser le plus grand nombre. Axe 3, développer l'agroécologie dans les espaces naturels, sensibilisation, éducation, évolution des pratiques. Acte 4, compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenade et de randonnées pédestres. Le plan d'action partenariat une mise en œuvre à l'échéance de 5 ans et pourra être évolutif. La charte des espaces naturels du Val-de-Marne porte sur le plan d'action la dynamique du schéma départemental des espaces naturels 2018-2028. Cette charte s'adresse aux acteurs du territoire, collectivités, aménageurs, associations, propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels souhaitant contribuer à la préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue en Val-de-Marne. Les signataires s'engagent ainsi à porter les valeurs de la charte et à mettre en œuvre les actions. Il est proposé d'adopter la charte des espaces naturels du Val-de-Marne et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette charte ainsi que tout document correspondant.
C'est juste pour une précision, c'est bien la même charte qui a été votée en Conseil de territoire le 7 octobre. Donc en fait là, on vote, parce que ce n'est pas précisé dans la note de synthèse, c'est juste un vote pour confirmer le vote du Conseil territorial. Hein.
Non, pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'une action qui vient du département. Simplement, le département y associe l'ensemble des collectivités et notamment les villes et les territoires. Il s'agit pour nous essentiellement, d'ailleurs l'intérêt principal de cette charte, c'est la plaine des Bordes, puisque c'est une zone naturelle sensible, un espace naturel sensible. Voilà, donc c'est une responsabilité du niveau départemental qui est, comme c'était le cas tout à l'heure, hein, on a des délibérations dans différents niveaux de collectivités en complément de ce qui est voté au département. S'il n'y a pas d'autres remarques...
Excusez-moi, je reviens juste par rapport au point précédent. Donc, en fait, on est bien dans la même dynamique, c'est-à-dire que c'est un vote qui s'est passé au niveau du Conseil territorial.
Non, il s'est passé au niveau du département, mais si vous voulez bien entendu...
Non, le 7 octobre, au Conseil territorial du 7 octobre, j'ai vu, ça a été voté, cette
charte.
Oui,
mais c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Alors, peut-être que je ne suis pas assez clair, je suis désolé.
Oui, je crois, oui.
Peut-être. Moi, j'estime l'être, mais bon. Donc, je vous dis que ce document est un document départemental qui ensuite... est présenté aux différentes collectivités appartenant au département. Il y a donc à la fois les territoires et les villes. Voilà pourquoi ce document vous est présenté.
Oui, mais juste ma question, c'était très simple. Hein. C'était juste pour savoir, c'était dans le cadre de la procédure par rapport au territoire, au GPSEA, où ça a été voté au 7 octobre au GPSEA. Donc, du coup,
ça n'a rien à voir avec le territoire, puisque le territoire est consulté au même titre que nous, puisque le territoire appartient au département. Comme nous sommes dans l'intérieur du département. Voilà pourquoi nous sommes consultés. Et effectivement, nous pourrions aussi, au nom du même principe que tout à l'heure, participer à l'élaboration de la charte. Il se trouve que c'est une communication qui est faite et qui nous permet d'être sensibilisés au sujet. Voilà, donc je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Le point numéro 25 porte sur... les vacations d'un médecin, et c'est Madame Lemeunier qui rapporte ce point.
Merci, Monsieur le maire. Alors, suite au départ du précédent médecin, il apparaît nécessaire de désigner un nouveau médecin qui interviendra environ 6 heures par mois sur 11 mois. Alors, le médecin interviendra donc à la crèche familiale, le multi-accueil Jean de Plus, ainsi que la coccinelle. Le taux horaire fixé pour la réalisation de ces missions est de 60 heures nettes de l'heure. La rémunération sera établie sur la base d'un décompte d'heures qui sera fourni chaque mois par le médecin. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention la convention de vacation du médecin auprès des structures petite enfance de la ville.
Qui est favorable ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 26 concerne l'attribution d'une subvention au Sporting Football Club de Chennevières. Madame Vialatou est le rapporteur de la délibération.
Oui, merci. Bonsoir. L'association Sporting Football Club de Chennevières a pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football. Elle a récemment créé une section vétérans. Lors de la première période de confinement due à la crise sanitaire, les subventions au profit des associations ont été attribuées par décision municipale. Le SFCC a alors bénéficié d'une subvention de 10 000 euros pour financement global. Afin de permettre à l'association SFCC d'acquérir du matériel de bureautique et de participer au financement d'un véhicule permettant de transporter les adhérents à différents événements, il convient d'attribuer à cette association une subvention complémentaire de 10 000 euros. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention pour projet d'un montant de 10 000 euros au profit de l'association Sporting Football Club.
Ringer.
Merci, Monsieur Barnot. Bien, pour mémoire, on se souvient que cette association a été créée pour répondre aux besoins de l'école de foot pour les enfants qui avaient terminé donc leur cycle et à partir des U13, U14 pouvant être repris en charge par l'association. Cette association perçoit depuis le début une subvention de 10 000 euros de mémoire d'une manière régulière. Est-ce que cette association a pu fournir aujourd'hui ses statuts ? Est-ce que les représentants qui ont été nommés, puisque vraisemblablement aucune AG n'a eu lieu depuis l'origine, donc pas censé être président, ni secrétaire, ni trésorier, donc le fait qu'on leur reverse une nouvelle subvention de 10 000 euros qui s'ajoute aux 10 000 déjà perçus m'interpelle, d'autant qu'on signale qu'il s'agit d'une création de section de vétérans. Or, il n'y a pas de section de vétérans de créer, il y a juste, en tout et pour tout, une section des U18 qui est en compétition, qui a fait peut-être 2 matchs dans l'année. Donc je pense que ces 20 000 euros qui est remis à cette association ne sont absolument pas justifiés. Et nous aimerions quand même avoir le détail de cette association, à savoir effectivement le nombre de joueurs. On souhaiterait également avoir comme information le nombre d'enfants canavérois, le nombre d'enfants également qui ont quitté les U13 et qui ont rejoint cette association. Vraisemblablement, il n'y en a pas non plus. Donc, sur tous ces éléments, nous aimerions avoir des réponses et notre groupe votera contre.
Là, tout va pouvoir répondre, mais j'observe que Mme Diringer fait à la fois les demandes et les réponses.
Avec des informations, j'ai, oui, M. Barnot.
Bon, alors, cette association, effectivement, a été en grande difficulté à cause de l'un de ses dirigeants, qui n'étaient pas dirigeants, qui étaient plutôt entraîneurs. Et ils ont fait leur demande de subvention en temps et en heure, comme toutes les associations. On l'avait laissé de côté, justement, parce qu'on leur a demandé de clarifier la situation administrative de cette association. Donc, ils nous ont justifié de toute la régularité de leur demande. Et nous avons dans un premier temps, décision municipale, accordé un financement global de 10 000 euros pour leur permettre de démarrer et de redémarrer. Malheureusement, le confinement fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir comme ils le voudraient. Mais dans la première demande que nous avions reçue dès le mois de mars 2020, nous avions bien noté qu'ils souhaitaient en projet, acquérir du matériel informatique, un véhicule pour transporter les jeunes. Et c'est pour cela que maintenant que tout est bien réglé, tout est clair, nous avons décidé de leur attribuer cette subvention pour projet, qu'ils devront bien entendu justifier dès le début de l'année 2021. Concernant les vétérans, C'est une indication qu'ils nous ont donnée. D'ailleurs, dans la note de synthèse, c'est juste, à titre d'information, c'est juste une anecdote supplémentaire. Donc, effectivement, ils envisagent de faire jouer des adultes. Ils ont augmenté leur section jusqu'au U18. Donc, tout ça, ça se met en place. C'est difficile. Ils succèdent à l'école municipale de football qui ne peut aller que jusqu'à un certain âge. Donc, eux, ils sont parfaitement à même d'entraîner des jeunes et de les faire participer à des compétitions. Donc, c'est pour les soutenir que nous avons décidé de leur attribuer cette subvention dont ils ont vraiment besoin.
Oui, je voudrais ajouter, si vous le permettez, que bien entendu, avant de leur accorder cette subvention, on a vérifié l'état de leur bureau, on a vérifié l'état de leur réunion, et que les documents qu'ils nous ont fournis étaient tout à fait conformes à ce qu'ils devaient être.
Alors, je relève un point de Madame Vialatou, puisque ils annoncent quand même qu'ils ont créé cette section de vétérans qui n'est pas du tout d'actualité. Donc, je considère qu'on vous a peut-être un petit peu menti là-dessus et que vous n'avez pas été assez vigilant.
Alors, de vouloir être trop transparent, on se fait taper dessus. On n'aurait pas dû le mettre alors. On le met pour être clair, pour montrer que cette association se débat et essaye de faire vivre le football pour les jeunes, les vieux, les grands. Voilà, c'est dommage d'être trop honnête.
C'est pas une question d'honnêteté, Madame Vialatou.
Madame Diranger semble avoir de l'hostilité à l'égard de cette association.
Alors, je ferai pas de commentaires là-dessus, Monsieur le maire, parce que je pourrais très bien dire que cette association reçoit une subvention complémentaire juste après les élections. Donc, on va passer là-dessus.
On ne peut pas la faire passer en décision municipale maintenant, donc voilà.
Néanmoins, je reviens encore sur le fait que, effectivement, à partir du moment où on nous donne un document qui n'est pas justifié, puisque cette section n'existe pas, ils n'ont qu'une section des U18. Aucune reprise n'a été faite après l'école de foot. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à même de me répondre sur le nombre d'enfants qui a quitté...
Vous leur demanderez, madame.
Laissez-moi finir. Qui a quitté, effectivement, l'école de foot pour rejoindre cette association qui a été créée essentiellement dans ce but-là.
Ce ne sont pas les mêmes âges. L'école municipale de football s'arrête à un certain âge et l'association s'est mise... à la disposition des Canavérois pour que les enfants qui quittent l'école municipale de football puissent continuer à faire du football à Chennevières au lieu d'aller à Saint-Maur, Ormesson ou Champigny. Voilà, c'est tout.
Oui, sauf qu'encore une fois, vous avez décidément tous un petit peu du mal à comprendre ce soir nos questions. Je réitère, il n'y a aucun enfant aujourd'hui dans les sections des U13, U14, U15, U16. Il n'existe qu'une section en U18. Donc 20 000 euros pour une section en U18, c'est cher payé, alors que dans le temps, il y avait 4 sections pour 10 000 euros. Donc les élections ont bien fait les choses.
Eh bien, madame, ils nous justifieront de dépenses et si ce n'est pas régulier, ils devront rembourser. Voilà, c'est tout.
Je l'espère. Et essayez au moins d'obtenir le nombre d'adhérents depuis les U14 jusqu'au U18 dans cette association.
Mais je pense que vous êtes en mesure de les trouver toutes seules. Hein.
Vous êtes à même de nous le dire, c'est vous qui financez, c'est pas moi.
Diranger, si je peux me permettre, Madame Diranger, je ne comprends pas votre
polémique. Pour essayer d'adoucir un peu le ton du débat, ou d'élever le ton du débat, je ne sais pas. Je vous vois que vous êtes tout à fait passionnée par le football et je m'en félicite. Simplement, je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés ensemble en 2014, la situation du football était extrêmement mal... Attendez, mais je peux continuer ? Non, non, mais je suis libre de dire ce que je veux, voyez ? Ben oui, ben je suis désolé, je suis libre de m'exprimer. Oui, ben écoutez, madame, je peux m'exprimer sans votre consentement.
Oui, je crois. Si ça vous fait plaisir.
Ben oui, ça me fait plaisir d'éclairer le conseil, et notamment les membres du conseil qui ne connaissent pas nécessairement la situation, et je le ferai d'ailleurs très brièvement, pour dire que lorsque nous étions arrivés aux affaires en 2014, la situation du football était tout à fait préoccupante à Chennevières. Bon, que nous avons créé cette école municipale de football qui, aujourd'hui, je crois, fait l'objet de commentaires positifs, alors je le pense, à moins que d'autres voix s'élèvent dans un sens différent, effectivement se pose bien la question du prolongement de cette activité de l'école de football. Et vous pourrez quand même admettre, je pense, Madame Diringer, que nous ne sommes pas dans l'année la plus simple pour que se déroulent des compétitions sportives. C'est aussi un élément qu'il convient évidemment de prendre en compte. Mais ça semble pas vous toucher beaucoup.
Donc, pour répondre à ce que vous êtes en train de dire, justement, on devrait retrouver des adhérents qui viennent de quitter l'école de foot, qui est si grassement fournie en enfants. On devrait maintenant les avoir retrouvés. Or, c'est pas le cas. C'est
oui,
là.
En pleine épidémie de Covid, c'est vrai que c'est tout à fait simple retrouver...
Les adhésions se poursuivent, Monsieur Barnot.
Oui, les adhésions se poursuivent. Nous souhaitons... que vous comprendrez bien qu'il s'agit aussi de lancer, de développer cette association. Nous souhaitons que nous sommes confiants dans ses possibilités d'action et nous souhaitons qu'au fil des ans, elle réponde à ce souhait que nous partageons tous de voir le football se développer à Chennevières. Et je crois que nous avons tout dit sur le sujet. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Très bien. Qui vote contre ? Je vous remercie. Monsieur Driche, il s'agit de l'admission en non-valeur pour l'année 2020.
La trésorerie de Chennevières a communiqué à la ville la liste des admissions en non-valeur. L'admission en non-valeur des cotes irrecouvrables, c'est-à-dire des titres pour lesquels l'ensemble des procédures de recouvrement ont été épuisées et pour lesquels il n'y a plus aucun espoir de recouvrement, fait partie intégrante de la politique de recouvrement. Pour établir cette liste, ont été vérifiés par la trésorerie les titres impayés des services de 2009 à 2014. En effet, apurer les titres irrecouvrables et les plus anciens permettra à la trésorerie de se concentrer sur les créances les plus récentes, créances pour lesquelles les chances de recouvrement sont les plus importantes. Le trésorier a sollicité l'admission en non-valeur de titres de recettes émis à l'encontre de particuliers ou d'entreprises pour un montant global de 58 946 euros. Un montant de 43 761 euros est à constater, correspondant à des astreintes émises pour un dispositif publicitaire en infraction avec la réglementation en vigueur. Cependant, la société concernée a cessé son activité au 30 juin 2019 et a été radiée du registre des commerces et des sociétés. Depuis cette date, cette société n'a plus d'existence juridique et les poursuites sont donc impossibles. De nombreuses oppositions bancaires ont été réalisées avant sa radiation, mais ont été sans résultat. La créance est donc à considérer comme irrecouvrable. Cette décision a pour effet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrecouvrables. Les admissions en non-valeur sont distinctes de l'effacement des dettes pour surendettement qui ne sont pas soumis à l'accord de l'organe délibérant. Il est proposé au Conseil municipal de donner une réponse favorable à la demande du trésorier.
Vote. Qui est favorable ? Madame Bordu a une question.
Oui, non, excusez-moi, je ne levais pas la main. Je pensais qu'il y avait une intervention avant le passage au vote. Moi, je voudrais juste revenir sur la société à qui on efface une dette de plus de 43 000 euros. Alors, les admissions en non-valeur, enfin, on a l'habitude d'en passer tous les ans. On le sait, il y a des créances qui sont irrecouvrables. Néanmoins, la 43 000 euros pour une société avec des créances qui datent de 2018 et 2019, je ne remets pas en cause le travail de la trésorerie hein, sur les relances. Néanmoins, cette société, en fait, il se trouve qu'il y a une petite erreur avec l'envoi du conseil, puisque dans le tableau listant les admissions en non-valeur, on avait les noms. Et donc la société, on sait qui c'est. Et la société a certes cessé son activité, mais elle a juste changé de nom. Donc elle est toujours là, cette société. Et on a des créances de 2018 et de 2019. Alors on n'aurait pas dû avoir le nom, hein, mais là il se trouve qu'on a un tableau. En tout cas, pour ceux qui ont eu le conseil par voie dématérialisée, on a les noms.
Question. Il s'agit, comme vous l'avez dit, hein, d'une demande du trésorier. Nous n'avons pas, nous, à superviser le travail du trésorier. Vous faites probablement référence à des pratiques qui sont certes critiquables, mais une société a fait faillite. La personne qui l'a dirigée en a créé une nouvelle qui ne peut pas, aux yeux du trésorier, être assujettie aux impôts de la première. Vous pouvez le déplorer l'un et l'autre, mais voilà.
Non, mais je sais bien que ça relève, enfin les relances relèvent bien de la trésorerie, et je remets pas en cause leur travail, sauf que comme on sait quelle est cette société, enfin on a connaissance et on peut aussi en alerter la trésorerie, d'autant qu'a priori c'est pas une faillite, hein, c'est juste une cessation d'activité, parce que certainement qu'il y avait un certain nombre de dettes. Et donc on en recrée une le lendemain, mais pour exactement la même activité, à la même adresse, avec les mêmes dirigeants. Après, enfin bon, c'est une pratique qui est à déplorer, mais qui est courante. Mais on pourrait peut-être en informer la trésorerie, puisqu'on sait qui c'est cette société.
Madame Vassram.
Oui, effectivement, vous n'auriez pas dû avoir communication, je vous l'accorde. Et le fait de l'avoir eu vous donne cette faveur d'information. Et effectivement, le trésorier a bien été informé que le repreneur est différent, mais que l'enseigne reste la même, évidemment. Alors, je suis désolée pour le groupe majoritaire, parce que je les vois tous faire des gros yeux. Donc, je pense que le groupe majoritaire, lui, a, pour une raison que j'ignore, n'a pas eu l'information. Mais en tout cas, voilà, le trésorier a bien été informé pour répondre à votre question.
Malheureusement, il ne s'agit pas de la première occasion où ce genre de circonstances se produit. Hein. Donc, pour ne pas empêcher quelqu'un soit de cesser son activité avec des créances, soit, et encore ce sont des créances prioritaires, bon, soit d'être en faillite et de recréer une autre société. Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie.
Monsieur le maire, si vous permettez, juste, je vais m'absenter quelques instants. Je donne pouvoir à ma collègue Teresa Losso, pendant mon absence, si vous permettez. Merci bien.
Donc, la délibération que nous allons maintenant aborder, le point numéro 28, présente évidemment une importance toute particulière. Elle renvoie à plusieurs délibérations antérieures. D'abord, à la présentation qui nous avait été faite par le trésorier, qui nous avait évidemment informé, nous le savions, mais qui avait officialisé la situation favorable des comptes de la mairie de Chennevières, Donc, cette délibération antérieure explique la raison pour laquelle nous avons trouvé auprès des banques des interlocuteurs qui nous ont écoutés. De même que le chiffre que nous vous avons donné au compte administratif qui indique un ratio de 4,9 années de remboursement, ce qui est un niveau exceptionnellement favorable. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où, d'une part, les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas, et d'autre part, où nous pouvons craindre que la situation évolue sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan de l'accès au financement. Car M. Ferrand, qui nous a servi de conseil et qui présentera un peu plus en détail ce contexte, la situation actuelle où beaucoup de liquidités se trouvent sur le marché pourrait ne pas durer. Et notamment du fait que les banques vont se trouver confrontées à un certain nombre de faillites qui risquent de fragiliser leurs fonds propres. Cette fragilisation entraînera une plus grande difficulté d'accès au crédit avec des taux qui, au niveau où ils se trouvent aujourd'hui, ne peuvent que remonter. Par ailleurs, nous avons une volonté politique d'investissement. C'est cette volonté politique d'investissement qui a été soutenue par une majorité de Canavérois. Et donc, nous devons honorer nos engagements. Et pour honorer ces engagements, bien entendu, il faut à la fois s'appuyer sur l'autofinancement, ce que nous faisons très largement, s'appuyer sur des demandes de subventions que nous avons situées à un niveau très modeste là, mais qui seront à un niveau plus important, notamment compte tenu du plan Castex et compte tenu du fait que l'engagement que nous prenons dans un certain nombre de domaines scolaires, domaines de développement durable, au travers du marché à performance énergétique, nous permettront de solliciter des subventions à un niveau plus élevé que celui que nous indiquons. Mais nous avons voulu être prudents dans notre prospective et surtout nous voulions que cet engagement qui nous permet de solidifier, de consolider nos perspectives de construction d'équipements et d'aménagement de voiries, nous voulions que cette perspective puisse être tout à fait claire à l'horizon des prochaines années. Voilà. Donc ça explique la démarche que nous avons entreprise et qui s'est trouvée évidemment accélérée par le contexte. Au fond, nous n'avions pas besoin de cet argent cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais nul ne sait ce que sera la situation dans un an, dans 6 mois. Et nul ne sait ce que seront les niveaux des taux. Nous avons travaillé donc sur un schéma qui nous permet, dans la situation des recettes, des ressources actuelles, de dégager une quarantaine de millions, soit en autofinancement, soit en emprunt, sans avoir à augmenter le taux des impôts. Nous avons fixé comme limite, il suffit de voir les chiffres pour le constater, et nous pourrons revenir là-dessus, donc dans le contexte financier actuel. C'est-à-dire, j'ignore évidemment s'il peut y avoir demain une baisse des dotations de l'État, voire une révision des dotations du territoire. Mais tout cela, toutes les communes y seront confrontées. Et ce qui est bien certain, et c'était d'ailleurs présent dans plusieurs programmes électoraux, pas dans tous, mais dans un certain nombre, c'est qu'il y a une nécessité d'investir dans notre ville. Donc, nécessité d'investir égale évidemment nécessité d'emprunter. On ne peut pas espérer investir au niveau suffisant simplement par l'autofinancement, ou alors on se limiterait à vraiment très peu de choses pendant la mandature, même si notre autofinancement est élevé. Voilà l'introduction que je voulais faire. Avant de laisser la parole à Monsieur Ferrand, qui peut-être d'abord se présentera, et puis ensuite pourra développer les sujets que je viens d'aborder.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Alors, pour me présenter en quelques mots, Didier Ferrand, j'ai 35 ans d'activité dans le secteur bancaire et quelques années en entreprise. Aujourd'hui, quand Monsieur le maire et son équipe m'ont approché pour me faire part des projets d'investissement qui sont ceux de la commune pour les années à venir, il est vrai qu'on vit un contexte en fait qui est très particulier. Et je voudrais juste prendre quelques instants pour revenir sur quelques éléments qu'a décrit Monsieur le maire. Pourquoi quelques éléments particuliers? Parce que la situation économique d'aujourd'hui, induite par la crise sanitaire, est telle que les banques centrales ont injecté énormément de liquidités dans le système économique. Les États font aussi beaucoup d'efforts pour injecter de l'argent dans le système économique pour soutenir beaucoup d'acteurs économiques. Et ça a pour conséquence de poser aujourd'hui une situation que l'on n'a jamais connue dans l'histoire économique. Pourquoi? Parce que on a des taux qui sont extrêmement bas. En 35 ans de carrière et puis d'études de taux d'intérêt, je n'ai jamais vu des niveaux de taux aussi bas. avec un contexte d'inflation qui est extrêmement bas également, mais avec un endettement qui devient en fait significatif, avec au sein de la zone européenne des pays qui n'ont pas le même taux d'endettement, et ça, ça peut poser quelques problèmes dans les mois et les années à venir, mais surtout un élément qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, le système bancaire a beaucoup prêté à tout type d'acteurs économiques, mais quand il va falloir faire face à, inévitablement et bien malheureusement, des défaillances de tout type d'acteurs économiques, d'ailleurs, qui vont se produire dans les mois à venir, cela risque de poser aux banques deux problèmes. Le premier problème, c'est vont-elles avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir absorber ce risque qui va en fait se produire? Et puis, le deuxième élément, vont-elles avoir assez de liquidités pour continuer à accompagner leurs clients, alors même que depuis finalement la crise de 2008-2009, elles ont énormément prêté? Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les banques peuvent prêter sur des niveaux de taux extrêmement bas, des durées qui sont aujourd'hui significativement longues, mais on voit bien qu'il commence à y avoir une sélectivité dans les types de clients à qui elles prêtent, c'est-à-dire que les meilleurs clients peuvent aujourd'hui être servis. Ce ne sera pas forcément le cas demain, à la fois parce que elles vont être obligées d'être sélectives sur le type de clientèle à qui elles vont prêter. Elles prêteront sur des durées qui seront un peu moins longues. Et puis, le phénomène de taux bas d'aujourd'hui peut ne pas perdurer. Pourquoi ? Parce que quand on observe un peu la situation, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir quelques tensions, et des tensions qui peuvent être inflationnistes. Alors c'est vrai qu'elles ne se répercutent pas encore tout à fait dans les prix à la consommation, mais en tout cas, l'inflation d'actifs réels est aujourd'hui très présente. Et donc cette inflation-là, à un moment ou à un autre, elle peut très bien provoquer une remontée des taux. D'ailleurs, quand on regarde depuis quelques semaines ce qui se passe aux États-Unis et malheureusement tout cela se propage ensuite en Europe, on s'aperçoit que sur les taux à long terme, eh bien finalement la remontée des taux commence à se produire. Donc aujourd'hui, ce contexte particulier est un contexte véritablement d'opportunité pour tout type de clients ou d'acteurs économiques qui ont des besoins de financement. Donc cette opportunité, elle peut être intéressante à prendre en fait dès aujourd'hui, mais pour pouvoir financer finalement ces 25 millions d'euros, c'est 25 millions d'euros sur un mandat en fait de 37 millions d'euros. Et là, l'élément qui est important à prendre en compte, c'est que on ne va pas financer 37 millions d'euros, c'est-à-dire 100% du mandat. On va en financer en fait moins de 70%. Donc c'est comme tout un chacun quand il va faire un crédit finalement à la banque. S'il a de l'apport personnel, là la banque peut commencer en fait à regarder si elle peut prêter à ce type de client. Et l'apport personnel, c'est l'autofinancement, mais comme vous l'avez vu dans le document, sur les 37 millions d'euros, il y a en fait 25% d'autofinancement. Une vision assez prudente sur les subventions à l'instant, 7 à 8%, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 68% de financement qui se fait par l'intermédiaire des banques. Mais avant de regarder si ces 68% de financement, on peut en fait les faire directement en ajoutant finalement de la dette à la dette actuelle, il apparaît aussi opportun de scanner la dette actuelle, c'est-à-dire de regarder si les 27 millions d'euros de dette actuelle à un taux de 4,32% ne peuvent pas, entre guillemets, être modifiés pour donner des marges de manœuvre financière à la commune. Comment ? Ben, en se posant la question de savoir si parmi ces 27 millions d'euros de dette, il n'y a pas des emprunts qui pourraient être transformés, et transformés peut-être sur des durées un peu plus longues, sur des niveaux de taux beaucoup plus bas. Et si on a la capacité de le faire sur des durées un peu plus longues et des niveaux de taux un peu plus bas, alors à ce moment-là, on peut se donner des marges de manœuvre financière, ce qui est le cas pour 7 millions d'euros de dette sur les 27 millions actuels. Ces 7 millions d'euros de dette ont une durée résiduelle qui est proche, en fait, de 13 ans, à un taux qui est de 3,50%. Et si on est capable de transformer ces 7 millions d'euros en les allongeant sur une durée plus longue avec les taux actuels, qui sont extrêmement bas, alors à ce moment-là, on va réduire les annuités à payer par la commune. Nous sommes aujourd'hui capables de faire cela. Pourquoi ? Parce que les 7 millions d'euros qui portent le taux de 3,50% sur 13 ans, on est capable de les transformer en 7 millions d'euros à 0,44% sur une durée de vie moyenne de 27 ans. C'est-à-dire qu'on double, un peu plus que doubler, la durée actuelle et on réduit en fait le taux de plus de 3 points sur la durée de ces crédits. Et ça, ça nous procure une marge de manœuvre qui conduit à réduire le montant des annuités à payer sur la dette actuelle de 300 000 à 400 000 euros jusqu'en 2026, 100 000 euros jusqu'en 2033. Et puis ensuite, ben forcément, hein, les crédits qui existaient vont être prolongés. Donc on va retrouver une partie des annuités sur des crédits qui n'existaient plus, puisqu'en fait, on les allonge de 14 années de plus par rapport à la durée actuelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en restructurant, en allongeant cette dette de 7 millions d'euros, moyennant un paiement d'indemnité actuarielle de 1,8 million d'euros, qui lui aussi est refinancé à 0,44%, sur 27 ans, eh bien, on a la capacité à financer 40% des 25 millions d'euros de nouveaux projets en ne modifiant pas le montant des annuités que doit payer la commune sur, notamment, la mandature à venir par rapport à la dette actuelle. Autrement dit, je prends la dette actuelle pour 27 millions d'euros. Je paye un certain montant d'annuité. Si je transforme 7 millions d'euros sur ces 27 millions d'euros à 0,44% sur 27 ans et que j'emprunte 10 millions d'euros, c'est-à-dire 40% des 25 millions d'euros, j'obtiens exactement le même montant d'annuité. Ce qui est tout à fait logique, puisque compte tenu du niveau des taux d'aujourd'hui, je réduis d'une façon massive le coût de la dette actuel, ce qui me permet, avec cette réduction, de financer 40% des 25 millions d'euros qu'on recherche de financement de projets. Sachant que ces financements de projets, comme vous avez pu les voir dans le document, ils s'étalent, en fait, au moins jusqu'en 2023. Alors, la particularité de la recherche des 25 millions d'euros de financement, qui se décompose en 9,2 millions d'euros auprès de la Banque des Territoires, et plus précisément la Banque des Territoires fait appel à la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, pour financer en fait les deux groupes scolaires qui font partie des 5 projets d'investissement. Ces 9,2 millions d'euros, aujourd'hui, la Banque des Territoires, via la Banque Européenne d'Investissement, nous permet d'emprunter à condition que l'on fasse cet emprunt d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que la Banque européenne d'investissement octroie aux banques, et particulièrement auprès de la Banque des Territoires, des enveloppes qui sont en fait limitées. limité en volume, limité dans le temps. Et aujourd'hui, c'est la deuxième enveloppe que la BEI met en place auprès de la Banque des Territoires, qui elle-même la met en place auprès de ses clients qui peuvent la solliciter, ce qui est le cas en fait pour la commune de Chennevières. Et donc aujourd'hui, Chennevières a la possibilité d'emprunter 9,2 millions d'euros, mais avec une petite singularité, c'est que ces 9,2 millions d'euros, il y en a 4,7 millions d'euros qui peut être emprunté en début 2021, 4,5 millions d'euros qui peut être emprunté en 2022. Ça veut dire que l'on peut accompagner les projets d'investissement de la commune, non pas en empruntant tout de suite, c'est-à-dire avec un déblocage des fonds qui se ferait immédiatement, mais avec un déblocage des fonds décalé dans le temps, en ayant l'accord d'ores et déjà à des niveaux de taux que l'on n'a jamais vus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BEI est capable de prêter à Chennevières ses 9,2 millions d'euros étalés entre 2021 et 2022 à 0,62% sur 25 ans. Alors, pour compléter les 9,2 millions d'euros de la BEI, il faut rechercher 15,8 millions d'euros pour arriver à 25 millions d'euros de financement de projets. Ces 15,8 millions d'euros, aujourd'hui, on peut les trouver auprès de la Banque Postale et auprès, en fait, d'Arkéa. Et là aussi, sur des durées qui sont très longues, puisque la Banque Postale peut prêter à Chennevières sur 20 ans et 25 ans, et Arkéa sur 30 ans. Toutes les banques ne prêtent pas sur ces durées aussi conséquentes. Et quand on regarde le niveau des taux de prêt, en fait, de la Banque Postale, 7 millions d'euros en 2021 à 0,59, 6 millions d'euros en 2022 à 0,78, et Arkéa qui prêterait 2,8 millions d'euros sur 30 ans à 0,92%, là encore, ces niveaux de taux-là permettent à la commune de financer ses projets sur les trois années à venir, en ayant la certitude que d'ores et déjà, le déblocage de ces fonds, par une contractualisation des prêts, pourra s'effectuer sur ces durées. Alors, les 25 millions d'euros, on les obtient par l'intermédiaire, en fait, de ce pool bancaire entre Banque des Territoires via la BEI, Banque Postale et puis Arkéa. Et comme je vous l'indiquais en fait tout à l'heure, sur ces 25 millions d'euros, il y a environ 10 millions d'euros qui sont financés par le refinancement des 7 millions d'euros de dette actuelle à un taux en fait de 0,44 par l'intermédiaire de deux groupes bancaires. Arkéa sur 30 ans pour 2,2 millions d'euros et la SFIL, qui est en fait un organisme de premier rang et qui a repris notamment beaucoup de crédits de Dexia. Et là, on a la capacité avec la SFIL de faire 6,5 millions d'euros, c'est-à-dire y compris les indemnités de remboursement par anticipation, à 0,26% sur 24 ans. Donc, aujourd'hui, la commune de Chennevières a la capacité, bien évidemment en respectant tous les ratios qu'il se doit de respecter pour toutes les années de la mandature et a fortiori pour les années suivantes, puisque si les prêts sont contractés, bien évidemment au fil du temps, les amortissements en capital induisent une baisse du capital restant dû, et si on rapporte ce capital restant dû à la CAF brute dégagée par la commune, bien évidemment, le ratio d'or est respecté sur les premières années de la mandature et a fortiori sur les années en fait suivantes. Mais là où il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important, c'est aussi le montant d'annuité que va payer en fait la commune sur les années à venir. Alors bien sûr, en faisant passer peu ou prou la dette de 27 millions d'euros à 52-53 millions d'euros quand il y aura le pic de la dette qui sera constaté, finalement le montant des intérêts que va payer la commune ne sera pas plus important que les intérêts qui sont payés aujourd'hui. Le montant des intérêts que va payer la commune ne sera pas plus important que ce qui est payé aujourd'hui, ce qui se comprend bien. Pourquoi ? Parce qu'en restructurant 7 millions d'euros de dette à 3,50 et quelques pourcents sur les 27 millions d'euros de dette actuelle, eh bien finalement ces 27 millions d'euros de dette actuelle, on les fait passer de 4,32% à 3,3%. Cette réduction de 1% des taux d'intérêt, en fait, sur 27 millions d'euros, eh bien, quelque part, ce montant de 1%, je le retrouve sur 25 millions d'euros de dettes supplémentaires. C'est-à-dire que les 25 millions d'euros prêtés par la Banque Postale, par la BEI, via la Banque des Territoires et par Arkéa, ces 25 millions d'euros, aujourd'hui, nous avons la capacité de les obtenir à un taux moyen de 0,69% sur une durée proche de 25 ans. Donc c'est tout à fait logique qu'en ayant restructuré de la dette actuelle par un rallongement et une baisse des taux, en rajoutant de la dette supplémentaire, on va dire pour faire simple, pour la bonne compréhension, pratiquement pour le même montant à un taux inférieur de 1%, eh bien finalement le montant des intérêts à payer par la commune grâce à cette restructuration ne sera pas plus conséquent. Là où la nuitée va être un peu plus conséquente, de 35%, c'est par le fait que bien évidemment il va falloir amortir le capital de cette dette en fait supplémentaire, mais l'amortissement de ce capital supplémentaire est largement couvert par la CAF nette dégagée en fait par la commune. Alors peut-être
5,7 millions en 2000, je rappelle que c'était un niveau de 5,7 millions, un peu plus même, sur le compte administratif 2019. Simplement un rappel.
Oui. Peut-être commenter le tableau qui est en fait dans la dernière page, qui est que quand on compare finalement avec l'ensemble des éléments que je viens de vous indiquer, le montant de la dette ou le poids de la dette, que ce soit en fait par habitant ou ce qui me paraît quand même beaucoup plus financièrement et économiquement à regarder, c'est-à-dire plutôt les annuités par habitant. Certes, on constate une augmentation, mais cette augmentation, elle est bien évidemment logique compte tenu du poids de la dette que l'on augmente en fait de 88%. Par contre, quand on compare aux communes qui sont assez proches, particulièrement dans les dernières années, et là je l'ai fait avec un niveau en fait de montant et de dette inflatée, c'est-à-dire en tenant compte en fait de l'inflation écoulée pour ramener les montants en euros constants, c'est-à-dire significativement comparables au montant de la dette actuelle et future de Chennevières. Ben finalement, on s'aperçoit que dans les communes voisines, on va avoir un montant de dette inflaté par habitant qui est, bon, pour certaines, un peu supérieur et puis pour d'autres qui sont un peu inférieurs. Mais l'idée est de dire aussi que ce poids de dette, on va en fait le constater en augmentation, bien évidemment significative en début de mandature, mais grâce à l'évolution, on va dire, enfin grâce au niveau des taux d'intérêt extrêmement bas et à l'amortissement du capital au fil du temps, finalement en fin de mandature, on aura une dette qui sera certes supérieure à celle que l'on constate aujourd'hui, mais qui sera pas bien plus importante que celle qui était constatée en fait en 2018 au niveau de la commune de Chennevières. Et puis quand on regarde en fait le CRD par habitant, bon, bien sûr, il va passer à un niveau plus conséquent en 2021, en 2022, mais pour revenir en fait à des niveaux en 2026 et en 2027 qui vont être beaucoup plus, on va dire, un petit peu dans la moyenne des communes voisines d'aujourd'hui, sans compter que bon, on peut prendre aussi des études qui démontre aujourd'hui l'attractivité de Chennevières, notamment en termes de nombre d'habitants sur les années à venir. Et bon, si cela peut être le cas, bien évidemment, le montant de la dette par habitant va être bien moindre et le montant d'annuité par habitant sera aussi en fait bien moindre. Je ne sais pas, Monsieur le maire, si...
Peut-être que vous aurez l'occasion de réintervenir, si vous le souhaitez, au moment de l'échange de questions qui ne manquera pas de se produire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, bon, les niveaux de dette qui ont été évoqués de communes voisines se situent, enfin, pour certaines d'entre elles, en tous les cas, des communes qui ont choisi d'investir. Et pourquoi ont-elles choisi d'investir ? Parce qu'elles avaient un besoin. Alors, c'est évidemment le cas de Chennevières qui n'a pas investi pendant 30 ans. Bien entendu, cela nécessite d'adopter la politique qui tient compte du contexte dans lequel on se trouve, et c'est ce que vous nous avez expliqué, je vous en remercie. Je voudrais dire aussi que ces taux, à l'époque où ces niveaux d'endettement, à l'époque où ils ont été constatés, représentaient des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, donc des montants à intérêt beaucoup plus élevés. Donc il faut relativiser la comparaison à la baisse du fait des intérêts générés. Alors, bien entendu, c'est un choix que nous faisons collectivement avec la majorité municipale. C'est un choix qui n'est possible que parce que, vous l'aurez compris au travers de l'explication de M. Ferrand, que parce que le stock de dette est en partie renégocié et qui nous permet, bien entendu, d'engager la politique pour laquelle nous avons été élus. Voilà, je pense que peut-être vous avez... un certain nombre de questions à poser et nous sommes prêts, bien entendu, à y répondre. Aujourd'hui.
Oui, je vous remercie. Tout d'abord, merci de l'explication de texte. Juste, est-ce que vous pourriez me rappeler à quel titre vous intervenez ? Parce qu'en fait, j'ai entendu votre nom, votre expérience, mais vous êtes là en tant que conseil de la commune dans la souscription.
Consultant.
D'accord. Très bien. Je vous remercie.
Puisque c'est un point important, je voudrais vous dire que, bien entendu, il ne s'agit pas de négociations et d'opérations simples. Vous mesurez bien la complexité des opérations dont il est question, donc nous avions besoin d'un consultant. Peut-être n'ai-je pas été assez clair au début dans la présentation de M. Ferrand.
Non, je n'ai pas dit que c'était simple et que ça ne justifiait pas la présence d'un consultant. C'était juste que je n'avais pas compris la fonction de M. Ferrand. Donc là, vous nous représentez en fait dans ce dossier de sujet un refinancement de la dette de la ville et la souscription de nouveaux emprunts. J'ai déjà une première question sur le premier refinancement. Est-ce qu'il s'agit de celui qui apparaît aussi en décision municipale et pour lequel on a la décision modificative après ?
Oui, puisque lors du premier conseil municipal, vous m'avez délégué, enfin en tout cas la majorité, m'a délégué la possibilité de le faire et que vous savez que ces opérations se font au jour le jour et qu'elles nécessitent, c'est-à-dire pour ça que le pouvoir est délégué, pour pouvoir intervenir sur le marché au meilleur moment. Et là, les montants que nous avons pu négocier sont, vous allez nous rappeler ?
Avec la suite ?
Oui.
Oui, 6,5 millions d'euros sur 24 ans à 0,26%.
Voilà, c'est ça. C'est marqué, mais effectivement, 0,26%. Donc, nous avons pu obtenir ce taux très avantageux parce que nous avons pu intervenir sur les marchés au moment le plus opportun.
Très bien, je vous remercie.
On a autant dire qu'on a répondu aux questions que vous pourriez nous poser sur cette décision municipale.
Oui, oui. Bah, enfin, bon, j'avais cru comprendre que c'était. On parlait de la même chose, mais je voulais juste en être sûre. Donc, effectivement, cette renégociation et avec des taux d'intérêt extrêmement bas est évidemment intéressante. On va pas le nier, et renégocier la dette a toujours du sens. Sauf que là, on renégocie la dette pour pouvoir emprunter de nouveau sur un programme d'investissement du mandat, donc 2020-2026. Nous sont annoncés dans ce dossier que quatre programmes d'investissement: l'école Germaine Tillon, le groupe scolaire du Moulin à Vent, le parc du Fort et l'église. Donc ce sont déjà quatre programmes qui étaient dans les autorisations de programme et pour lesquels l'emprunt de 20 millions était censé assurer le financement. Donc je voudrais savoir quels sont les autres investissements envisagés, puisque dans la note de synthèse, on nous parle juste d'éclairage public, de travaux de voirie. Et on ne voit apparaître, en tout cas en termes de projet d'investissement, que l'école Germaine Tillon et le groupe scolaire du Moulin, en tout cas dans les documents qui nous sont présentés, donc financés par la banque, par la BEI. On ne voit pas apparaître les autres. Donc je voulais savoir quels étaient les autres projets qui avaient été présentés aux banques, puisque dans la note de synthèse, il nous est dit qu'un programme détaillé a été présenté aux banques, et c'est dommage que les banques aient plus d'informations que le conseil municipal sur les projets qui leur sont présentés. Donc déjà sur ce point, je voudrais avoir des éléments, parce que mine de rien, on emprunte 25 millions et 25 millions, ce n'est quand même pas rien, même si j'ai bien conscience que demain, on ne sait pas de combien pourront, quelles seront les liquidités et les possibilités des banques. Néanmoins, 25 millions en début de mandat, même si vous nous garantissez que vous n'augmenterez pas les impôts, excusez-moi, mais j'émets un doute. D'autant que quand on avait voté le programme pluriannuel d'investissement sur le précédent mandat, nous vous avions sollicité en vous demandant si un nouveau recours à l'emprunt aurait lieu, et vous nous aviez répondu par la négative, puisque l'autofinancement plus les 20 millions du précédent mandat permettait de financer tout le programme d'investissement. Donc déjà, juste si vous pouviez me répondre sur les projets.
Oui, alors, sur les projets, si vous voulez, la négociation avec les banques est la suivante. Les banques souhaitent soutenir certains types de projets, parce qu'il s'agit pas de n'importe quelle banque, il s'agit de banques publiques qui doivent, dans leur bilan, dans le bilan d'action qu'elles rendent aux États, qu'elles rendent à la Banque centrale, doivent indiquer une affectation. Et qu'elle préfère comme affectation les groupes scolaires, le développement durable, et donc que nous avons fléché, en quelque sorte, les montants sur ce type d'équipement pour bénéficier des prêts. Voilà pourquoi ces équipements sont plus spécifiquement signalés, parce qu'encore une fois, ça a été une négociation qui n'a pas été d'une simplicité, même si nous avons de bons ratios. Il ne suffit pas d'aller voir une banque pour lui dire « voilà, on voudrait tant ». Et c'est d'ailleurs M. Ferrand qui, évidemment, en tant que spécialiste, a pu mener à bien cette négociation. Et il a fallu donc indiquer ces différents équipements qui sont cités dans la délibération et qui doivent être cités de façon explicite pour justement justifier l'emprunt. Il est bien clair que nous pourrons disposer de moyens suffisants pour faire d'autres équipements. Et ces autres équipements concernent aussi bien le théâtre Roger Lafaille que également la construction d'une maison de l'animal, que l'extension du parc Corot, que la requalification du cœur de ville, que la réfection de la toiture du fort. Vous savez que nous sommes soucieux de protéger le patrimoine, et éventuellement aussi une participation en relation avec le territoire, si nous le pouvons, dans le cadre de l'ANRU, du gymnase et du stade Armand Fay. Donc voilà un ensemble d'actions. Je veux dire que nous n'avons aucune crainte à Chennevières quant aux secteurs dans lesquels nous pourrions affecter les moyens dont nous disposons, qui sont effectivement beaucoup plus importants que les 25 millions d'euros, puisqu'ils s'y ajoutent l'autofinancement. Et même s'il n'est pas question de confondre la trésorerie et un prêt ou de l'autofinancement, aujourd'hui, nous avons plus de 12 millions d'euros de trésorerie, ce qui est une situation extrêmement favorable. Donc, s'ajoute à cela des montants de subventions que nous allons bien entendu chercher. Vous observerez que par souci d'être tout à fait prudent avec les banques, nous avons mis un niveau d'un peu plus de 2 millions d'euros. Ce niveau va déjà être atteint au Moulin par le soutien apporté dans le cadre du plan Castex, puisque vous savez que le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures de soutien. La difficulté était d'ailleurs qu'il fallait remettre les dossiers avant le 30 septembre. Ce qui fait que seules les collectivités qui avaient des dossiers en cours pouvaient y prétendre. Mais c'est déjà 2 millions d'euros. Et, bien entendu, nous allons solliciter des subventions auprès des différentes instances, tant régionales que métropoles, que d'autres départementales. Enfin bref, l'ensemble des instances que nous pouvons, et nous irons bien au-delà des 2 millions. Alors, plus nous aurons obtenu de capacité en termes de subventions, plus nous pourrons aller loin dans le projet qui est le nôtre. Alors, vous nous dites qu'effectivement, nous avions dit qu'il n'y avait pas de besoin en financement cette année. Et c'est vrai. Je viens de vous dire que nous avions 12 millions de trésorerie. Nous aurions pu attendre, et c'était mon intention, au mois de juillet. Je savais qu'il allait y avoir, bien entendu, des besoins en financement. Je ne peux pas imaginer appliquer le programme que j'ai présenté au Canavérois, comme d'autres programmes, d'ailleurs, sans qu'il y ait de besoin en financement. Simplement, en circonstances ordinaires, nous aurions attendu, bien entendu, chaque année, peut-être que nous aurions renégocié en même temps, effectivement, au taux actuel, mais nous aurions été en situation d'attendre. Là, chacun mesure la période particulière, la période exceptionnelle que nous vivons. Elle est exceptionnelle à la fois par sa dureté, elle est exceptionnelle par les taux d'intérêt, et elle est probablement exceptionnelle par la capacité d'endettement que nous pouvons avoir aujourd'hui, que nous ne pourrions pas avoir demain. Madame Diringer.
Oui, merci, Monsieur Barnot. Bien, Madame Borduy l'a évoqué, s'agissant du PPI, et les anciens de la mandature précédente le rappelleront également, vous nous aviez présenté un plan qui annonçait l'ensemble des investissements que vous venez d'évoquer, qui nous amenait à, effectivement, à environ, c'est plus qu'environ, vous l'aviez défini, 57 millions d'euros pour répondre à l'ensemble de ce qui vient d'être évoqué. Là-dessus, bien sûr, il s'agissait également de vente du foncier sur Chennevières, notamment le parc Corot, la plaine des Bordes. Vous aviez cibler un certain nombre de fonciers qui vous permettaient d'éviter l'emprunt, puisque l'emprunt que vous annonciez se limitait à 5,5 millions d'euros seulement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que vous abandonnez la vente du foncier, ce qui vous permet effectivement et ce qui peut justifier cet emprunt? Voilà toute ma question.
Alors, effectivement, je vous confirme que j'abandonne la vente de la plaine des Bordes, puisque ça n'appartient pas à la ville.
Juste la plaine des Bordes, on précise le centre de loisirs.
Ah oui, mais c'est pas dans la plaine des Bordes exactement, c'est tout à fait autre chose. Bon, situé plaine des Bordes, mais enfin bon, simplement pour, je dirais, égayer un peu le débat. Vous avez évoqué les 25 millions. On peut ajouter à cela une capacité d'autofinancement une fois le capital restant dû versé chaque année, qui fait partie de l'investissement. Donc environ 2 millions d'euros par an. Ça fait un total de 35. S'y ajoute effectivement un reliquat de la trésorerie de cette année. S'y ajoute des subventions. Je dirais que tout dépendra, il est difficile de dire aujourd'hui, chose précise en matière de financière, puisqu'on ne sait pas exactement quel sera le volume des subventions. Pour le reste, il n'a jamais été question de vendre le parc Corot. Jamais question de vendre le parc Corot. Il a été question de l'étendre. C'est ce à quoi je me suis engagé, de l'étendre. Bon. Et il a été question également, effectivement, de mobiliser le foncier en partie de l'école Corot, mais pas de, ni de, j'ai jamais proposé à quiconque de faire disparaître le parc Corot. Je suis très heureux de l'apprendre, mais jamais. Alors peut-être que vous l'avez dit dans vos nombreux messages sur Facebook, parce que la littérature est très très riche, et même vous le développez pendant la période même du conseil municipal. Donc, vous pouvez toujours écrire ou dire ce que vous voulez, mais j'ai jamais envisagé un seul instant de vendre le parc Corot. J'ai précisément eu l'idée de l'étendre. Après, qu'il puisse y avoir une mobilisation du foncier de la ville pour assurer des moyens complémentaires, oui, nous en avons besoin, certainement. Et je ne veux pas prendre d'engagement de cette sorte ce soir, ça serait irresponsable de ma part. Ça ne serait pas conforme à ce que j'ai dit au Canavérois, puisque j'ai effectivement engagé la voie avec mon équipe, la voie d'un programme qui représente un investissement très fort sur les 10 années à venir, pas simplement sur la prochaine mandature, puisque on sait que tout cela se fait dans le temps. Mais déjà, nous donnons avec cet emprunt, au moment où c'est possible, la possibilité de mise en œuvre d'une bonne partie du chemin.
Oui, simplement histoire de vous rafraîchir la mémoire, si toutefois vous n'avez plus les slides, je serais ravie de pouvoir vous les proposer à nouveau concernant Corot.
Oui, mais je n'ai pas les slides. Enfin bon, je ne sais pas où vous prenez ces slides, mais à aucun moment, bien entendu, je n'ai eu l'intention de vendre le parc Corot. À aucun moment, Madame Diringer. Alors, vous confondez sans doute l'école et le parc, mais bon, il faut remettre parfois les choses les pendules à l'heure. Qui, dans cette ville, pourrait vouloir vendre le parc Corot ?
Non, simplement étendre, aller un petit peu plus loin que l'école. Quand on parle du parc, peut-être pas tout le parc, mais aller au-delà.
Bon, écoutez, je pense que donc nous nous entendons sur le fait que je n'ai jamais voulu vendre le parc Corot, que vous confondez un peu le parc et l'école. Je compte l'étendre, pas forcément sur toute la surface de l'école, voilà. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, rien de nouveau. Bon, donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense avoir répondu. Madame Borduy.
Oui, merci. Oui, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne dis pas qu'il ne faut pas emprunter. Je trouve que 25 millions, c'est conséquent, ça engage la commune et donc les Canavérois, puisqu'on double avec la renégociation la durée de la dette. Je trouve que c'est conséquent. Vous nous montrez ensuite un graphique qui retrace l'évolution des annuités en nous disant que finalement à la fin du mandat, l'écart entre les montants dus au titre de la dette actuelle et celui et le montant dû au regard de la nouvelle dette sera de 600 000 euros. Alors moi je lis plutôt 900 000, donc je dois avoir une erreur de lecture. Et moi je vois 900 000 voire plus, et ça jusqu'en 2045 au moins. Donc, Monsieur le maire, même si vous dites que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, je pense que vous allez être contraint de les augmenter. Et tout à l'heure, vous avez quand même un petit peu amorcé la chose en parlant de baisse de dotation de l'État et que vous ne savez pas, évidemment, de quoi l'avenir sera fait. Mais je pense qu'on va vers une augmentation des impôts. Je vais juste terminer, puisque... comme souvent, on compare la commune aux communes limitrophes, sauf que les communes limitrophes n'ont pas forcément la même strate que Chennevières. Chennevières est sur une strate de 10 000 à 20 000 habitants. Là, on nous compare un montant de dette par habitant à Champigny, 70 000 habitants, ou même à Villiers, même le Plessis. Le Plessis est sur une strate de 20 à 50 000 habitants. Alors même si on prend en compte les projections de la préfecture avec 22 000 habitants pour Chennevières, on est quand même un montant de dette par habitant à 1 900 euros, disons, je crois que c'est en fin de mandat, puisque je vous accorde le montant en fin de mandat. Les comparaisons, en plus, sont faites sur des années qui n'ont rien à voir. Enfin, on ne peut pas comparer.
c'est absolument, même si on parle de dette inflatée, c'est absolument pas comparable. Et moi, très, très honnêtement, les montants que l'on trouve référence 2018 pour les communes que vous avez citées, mais après on peut citer quand même des communes de même strate, ils ne sont pas ceux-là. Donc clairement, Chennevières aura une dette par habitant très conséquente au regard des communes limitrophes, si le choix est de les comparer à ces communes-là et pas à des communes de même strate. Mais en tout cas, on sera bien au-delà de la moyenne nationale sur des communes de même strate. Hein. La moyenne nationale, je crois qu'elle est à moins de 1 000 euros par habitant. Moi je veux bien qu'on compare des choses, mais comparons des choses comparables et sur des mêmes années. Et enfin, je finirai que vous nous présentez un dossier, alors certes étayé, mais finalement on a peu d'informations puisque les investissements, enfin il faut vous les demander maintenant. Par ailleurs, il était temps quand même de convoquer le conseil municipal pour ses emprunts, puisque les offres, en tout cas de banques, la Banque Postale et Arkéa, arrivent à échéance demain. Donc je pense qu'on était vraiment en dernière limite. Il y a une augmentation considérable de la dette, sans projet en tout cas pour les conseillers d'opposition. Je parle vraiment là en tant que conseillère d'opposition. J'imagine que la majorité a les projets, mais en tout cas les conseillers d'opposition n'ont pas les projets en face. Et on se dirige très clairement vers une nouvelle augmentation des impôts.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on peut peut-être terminer ce débat, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais je vais revenir sur ce que vient de dire Madame Borduy. D'abord, effectivement, les comparaisons n'est pas raison. Mais tout de même, lorsqu'on parle du Plessis-Trévis qui est à 20 500 habitants et de nous qui sommes à 19 000, ça n'est pas non plus, parce que nous ne sommes pas dans la même strate, absolument invraisemblable. Bon. Ensuite, pourquoi devons-nous aujourd'hui souscrire des emprunts, à votre avis, Madame Borduy? Parce que pendant 30 ans, on n'a pas investi. Et c'est comme ça. C'est un constat, malheureusement, que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés en 2014. Alors, il faut rattraper le retard. Il faut rattraper le retard. Notre marché à performance énergétique, c'est un investissement lourd. C'est un investissement qui entraînera des réductions de dépenses de fonctionnement. À un moment crucial, où tout le monde évoque le réchauffement climatique, le CO2, le risque qui pèse sur notre planète, c'est pas rien. L'école du Moulin, 12 millions d'euros, avec le gymnase, avec le futur Prige destiné plus aux jeunes, ce n'est pas rien. L'aménagement du centre-ville, ce n'est pas rien. Le théâtre, ce n'est pas rien. L'aménagement du fort, les travaux sur le fort, ce n'est pas rien. Le gymnase Armand Fay, et qu'il faut absolument refaire entièrement. Tout cela, c'est un héritage. Et encore, je ne cite pas tout. Je me félicite que nous ayons des soutiens, puisque nous avons transféré les équipements publics pour la médiathèque et le conservatoire, sinon il faudrait aussi s'occuper du financement intégral de ces équipements. Nous attachons de l'importance aux biotopes, à la sensibilisation à l'égard du monde animal. La maison de l'animal, c'est pas gratuit non plus. Voilà, donc le projet, comme je vous l'ai expliqué, nous devons cibler pour ces emprunts sur un certain nombre de dépenses qui sont privilégiées par les banques. Ça n'exclut pas, bien entendu, que nous ayons un programme beaucoup plus ambitieux. Alors, vous ne le connaissez pas. Vous avez encore, je suppose, connaissance, notamment pour l'avoir contesté, du programme que nous avions présenté au Canavérois. Et il n'est pas complètement parti aux oubliettes, en tout cas pas dans notre esprit. Alors, Madame Borduy, vous aviez une certaine cohérence dans votre projet. Parce que vous proposiez de baisser les impôts, mais ça voulait dire évidemment que vous n'auriez pas les marges de manœuvre pour emprunter. Et vous auriez donc fait moins d'investissements. votre programme sur ce plan était certainement cohérent, parce que vous n'auriez pas trouvé l'argent par magie. Donc ce que vous dites aujourd'hui est assez cohérent avec ce que vous avez dit pendant la campagne. Je ne dirai pas la même chose de Madame Diringer. Mais c'est une autre histoire. Donc, voilà, je pense que nous avons peut-être fait le tour de la question. Je crois que ces investissements sont utiles et que nous prenons ce soir une décision importante dont je mesure qu'elle engage, bien entendu, l'avenir, mais qu'elle engage dans le bon sens. Voilà.
Si je peux me permettre, monsieur le maire, pardon.
Oui.
C'est Samira.
Oui.
Bonsoir. En fait, qui dit investissement dit aussi du positif, dans le sens où là, on est en pleine crise économique. On va être en crise économique du fait de la crise sanitaire et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le fait d'investir dans la ville, donc nous, on va voir les choses évoluer, mais en plus, on va donner à des grosses entreprises la possibilité de travailler aussi. Donc ça, c'est un point qui est aussi très, très important à soulever. Voilà.
Merci, Roumi, d'avoir souligné ce point. Je pense qu'en effet, c'est pas évidemment notre décision concerne Chennevières, mais je suis convaincu également que si nous pouvons avoir un espoir de rebond sur peut-être 5, 10 ans, 3 ans, bon, selon les prévisions, ça varie, c'est bien par l'investissement. Ça ne peut pas être uniquement par des dépenses de fonctionnement. L'investissement, il est effectivement nécessaire à Chennevières, mais d'une manière générale, il est nécessaire, ce que le Premier ministre reconnaît d'ailleurs par la mise en œuvre de ce plan, qui est exceptionnellement important en volume financier, le plan qui a été présenté au début du mois de septembre. Donc, merci pour cette extension du sujet. On va passer au vote. Alors, en ce qui concerne le vote, il y a plusieurs votes, j'imagine. Il y a un seul vote. Bon, donc il s'agit d'un vote global sur l'ensemble des emprunts, à l'exception de ceux qui ont été que vous retrouverez dans les décisions municipales avec la SFIL. Et donc je vous propose de voter. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie pour ce débat. Alors, le point suivant va être présenté par M. Driche et il est dans la logique de la discussion précédente.
Oui, d'autant plus que Mme Bordu a déjà pratiquement expliqué la note de synthèse. La présente décision modificative du budget a pour objet principal d'intégrer les conséquences financières liées au refinancement de plusieurs emprunts avec la SFIL et l'étalement du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé et de prévoir les crédits supplémentaires pour les admissions en non-valeur. Voilà ce que l'on peut dire. On va voter chapitre par chapitre.
Madame Bordui.
Oui, excusez-moi, j'ai malgré tout une petite question qui concerne l'investissement. Alors, on voit bien les mouvements sur les opérations d'ordre qui correspondent au remboursement de la dette et puis à l'étalement aussi de l'indemnité de remboursement anticipé. En revanche, en investissement, on retrouve la somme de 98 765 euros en installation de voirie. Donc je voudrais juste savoir de quoi il s'agit, parce que bon, remettre une telle somme au mois de novembre, voilà, je voudrais savoir s'il y a quelque chose de supplémentaire en investissement qui est arrivé.
Non, il n'y a pas quelque chose de supplémentaire, mais tout à l'heure, M. Ferrand vous a exposé qu'effectivement, les taux renégociés avaient été renégociés à un niveau très intéressant, mais qu'il y avait bien entendu une pénalité, comme c'est le cas dans tous les remboursements d'emprunt, et cette pénalité est inscrite, ce niveau de 98 000 euros, sur l'année en cours. Elle est étalée sur plusieurs années. Voilà, donc c'était évidemment la condition pour laquelle, qui était sine qua non, si nous voulions rester à un niveau, malgré nos 5,7 millions qui apparaissaient dans le compte administratif, eh bien, il fallait évidemment, si on voulait engager cet emprunt, profiter des circonstances pour renégocier les emprunts antérieurs qui pouvaient l'être. Et c'est là que ce montant apparaît. Je propose que nous passions au vote. Chapitre 011, qui est favorable?
Excusez-moi, Monsieur Barnaud, mais c'était pas ça. Hein.
puisque ça, les 98 000, c'est les 1,4 million divisé sur 15 ans. Moi, je parlais de la ligne au chapitre 21 en immobilisation. Je parlais pas de les 98 000, je les ai bien compris, hein, c'est les 1,4 million reportés sur 15 ans.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est exactement ça, mais c'est en fait, c'est juste une opération comptable pour l'équilibre du budget, tout simplement.
Bon, donc nous allons passer au vote, chapitre 11. Qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 12, qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 14, qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 65, qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 42, qui est favorable ? Qui vote contre ? Il s'agissait donc des dépenses. On doit voter aussi les recettes. Chapitre 42 également. Qui est favorable ? Qui vote contre ? Maintenant, les dépenses d'investissement. Chapitre 21. Qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 40. Qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 41, qui est favorable ? Qui vote contre ? Recettes d'investissement, chapitre 40, qui est favorable ? Qui vote contre ? Chapitre 41, qui est favorable ? Qui vote contre ? Très bien, je vous remercie. Nous pouvons passer au point 30. Alors, je ne vais pas vous lire le vœu qui a été travaillé en relation avec le territoire. Alors, je profite tout de même de l'occasion pour souligner la différence de nos démarches. Je souhaite bien entendu que vous votiez ce vœu. Mais un peu comme je le disais au début du Conseil, lorsque je constatais que vous expliquiez que c'était moi qui, en quelque sorte, avais empêché le public d'accéder à cette enceinte, vous avez choisi de faire peur. C'est votre démarche. Comment enrichir sa page Facebook ? Voilà votre politique. Plutôt que de s'intéresser au Canavérois, votre sujet est Internet. Alors, nous avons procédé très différemment. Nous avons d'abord, comme je vous l'ai expliqué au début, saisi le territoire, puisque sa compétence est l'aménagement. Et nous avons saisi le territoire en évoquant le projet d'entrée de Ville-Nord. Comment en effet admettre qu'alors que l'État, par le CIN, et du fait de l'arrivée des transports, nous encourage à aménager ce secteur, comment admettre qu'il y installe en même temps des modulaires ? Il fallait donc avoir une parole unie avec le territoire. Et ce n'est pas en agitant la population pour commencer la démarche qu'on parvient à ces résultats. C'est en travaillant. Nous l'avons fait également avec les parlementaires. Deux questions écrites et une question orale qui va être posée par le sénateur Lafond. Les questions écrites avaient été posées par le sénateur Cambon, par le sénateur Lafond. Donc nous avons associé des parlementaires. Et bien entendu, nous informons la population dès lors que ces démarches ont avancé. Nous l'informons par une lettre du maire qui n'a rien à voir avec une pétition au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire un sens qui a très peu de chances d'aboutir. On sait que où vont les pétitions. Nous, nous mobilisons la population sur la base d'un programme, d'un projet, en relation avec le territoire, en relation avec les parlementaires. Donc notre démarche est très différente. Bien entendu, nous serons très heureux que vous nous associez puissiez vous associer à notre démarche. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le rôle de l'exécutif de jouer cette fonction de discussion, de dialogue avec les autorités compétentes. Voilà ce que je voulais dire, parce que je crois que vous avez pris connaissance de ce vœu, et donc je n'avais pas lieu que je le lise. Vous en connaissez les thèmes. Juste, Madame Diringer.
Oui, juste avant de revenir sur le vœu, simplement, je dirais que la question qui a été... Internet a eu l'air de vous chagriner un petit peu sur ce qui a été dit des réseaux sociaux, mais je pense que si vous aviez eu la délicatesse et la décence de répondre à la question écrite, à savoir si aujourd'hui cette séance allait être enregistrée et filmée, on attend encore la réponse aujourd'hui. Donc je pense que vous ne devez pas vous surprendre de l'information que nous communiquons. Lorsque vous serez correct à nous répondre à nos missives, eh bien, il n'y aura pas de mauvaises informations, on sera honnête.
Si je peux me permettre, monsieur le maire, on était en plein conseil municipal. Il y a une heure, vous envoyez une annonce dans la page, alors qu'on est en plein conseil municipal. Je ne comprends pas vos polémiques. C'est.
Voudra bien comprendre ce qu'il souhaite, mais personnellement, je n'aspire pas à une société où les réseaux sociaux sont sûrement utiles, mais deviennent une sorte de méthode de communication pour désinformer. En tout cas, ce n'est pas la nôtre.
Malheureusement, c'est l'avenir, il va falloir vous y habituer.
Oui, c'est l'avenir, peut-être que c'est l'avenir, je m'y habitue, vous savez, j'ai eu l'occasion de me servir de cela aussi, je ne suis pas complètement ignare en la matière, simplement, il y a une manière de s'en servir, on le voit bien, et pas seulement vous. Vous vous inscrivez dans une longue tradition, là, qui est en train de se créer, de malhonnêteté intellectuelle. Je pense qu'il faut résumer ça comme ça, parce que c'est le mot qui convient. Et je vous propose que nous passions au vote.
Excusez-moi, juste, je vais intervenir sur le sujet de la communication. Nous avons le même nombre de signes que lorsqu'il y avait plusieurs groupes. On vous avait demandé de l'augmenter, vous avez refusé. Nous n'avons pas de communication sur le site internet de la mairie comme ça devrait l'être. Nous n'avons pas de communication sur le site internet de Facebook. On fait juste, en fait, ce pour quoi on a été élu. On informe la population de notre point de vue. Voilà.
Oui, alors si vous voulez, ce n'est pas l'objet de la question de la délibération de ce soir. Hein. Vous posez des questions écrites, il y a un règlement qui est le règlement de l'ancienne municipalité et qui va être voté à nouveau, bientôt. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable à l'adoption de ce vœu ? Je vous remercie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Eh bien, nous allons passer maintenant, sauf s'il y a des remarques sur les décisions municipales, nous allons passer aux questions. Aux questions, donc je vous demande une petite seconde. Alors, la question numéro 1 portait sur les modulaires. Je la cite, « Nous avons appris un peu par hasard que fin juillet, l'État avait décidé d'implanter avenue de Queuilly, derrière le Fort et le Collège Molière, 150 logements sociaux en construction modulaire pour de jeunes majeurs isolés en situation de grande précarité, éventuellement quelques familles. Notre volonté n'est pas de nous opposer à notre obligation de solidarité, mais nous estimons que les erreurs du passé se reproduisent avec de tels projets, particulièrement à Chennevières, en concentrant les populations les plus démunies en un même lieu, puisque le site retenu est limitrophe du site Adoma, où il y a déjà 55 logements. Par ailleurs, nous estimons que ces Algeco ne sont pas des solutions pérennes pour des personnes qui seront accueillies. Nous tenons tout d'abord à vous dire que nous sommes heureux qu'un vœu contre cette décision unilatérale du préfet soit présenté lors de cette séance. Vous avez enfin pris la décision de vous saisir de ce sujet, certainement à la suite de notre action d'information auprès de la population. Nous avons lancé une pétition afin que les Canavérois puissent être entendus sur le sujet. Nous l'avons transmise au préfet en sollicitant un rendez-vous auprès de lui. Notre question est plutôt une proposition sur ce sujet. Nous vous invitons à rejoindre notre action auprès du préfet, car l'avenir de Chennevières et de ses habitants doit être un combat commun. Il y a des sujets, la réponse que nous apportons. Il y a des sujets pour lesquels la politique politicienne n'a pas sa place. Et malheureusement, pour les Canévérois, vous ne changez pas vos mauvaises habitudes. Toute agitation n'est pas action. Vous prétendez défendre les Canévérois en les effrayant avec une pétition sans connaître les tenants et les aboutissants de ce projet. Quand nous préférons agir pour défendre les intérêts de la ville avec l'ensemble des éléments que nous avons en notre possession. Nous constatons aussi que vous ne votez pas le vœu pour lequel vous estimez pourtant être favorable, sans doute pour des raisons, soit des raisons qui m'échappent, soit des raisons purement politiques. Nous avons également coordonné notre action avec les deux sénateurs, Christian Cambon, par une question écrite au gouvernement, qui est toujours en attente d'une réponse, Laurent Lafon, qui interrogera le 1er décembre le gouvernement par question orale dans l'hémicycle quant à l'implantation de logements modulaires par l'État. Je pense que si votre démarche est sincère, et je l'espère sur le sujet des modulaires, je vous invite alors à rejoindre notre initiative et à remplir le document qui est en cours de distribution dans l'ensemble des boîtes aux lettres canavéroises. Notre action, en coordination avec le territoire, mais également avec les parlementaires du Val-de-Marne, sera beaucoup plus forte pour réaffirmer notre opposition à ce projet. Sur ces sujets si importants, il n'y a pas de place pour le calcul politique, et je me réjouis encore une fois que nous ayons ce soir pu exprimer la volonté du groupe majoritaire. Je regrette que vous ne l'ayez pas suivi. Question numéro 2 porte sur les comités de quartier. Je laisse la parole à Monsieur Driche.
Alors, votre question, les comités de quartier n'ont toujours pas été constitués, or un certain nombre de conseillers municipaux perçoivent une indemnité pour cette seule délégation. Pourriez-vous nous indiquer quand les comités de quartier seront mis en place, leur découpage, leur composition, ainsi que les modalités par lesquelles vous comptez en informer la population ? Voici la réponse. La crise sanitaire nous a poussé à reculer la date d'installation des comités de quartier. Celle-ci sera communiquée très prochainement, toutefois. Nous avons continué à avancer sur ce sujet qui est important et attendu par les Canavérois. La démocratie locale est au cœur de nos engagements, puisque je tiens à le rappeler, c'est sous notre mandature en 2014 que nous avons créé ces comités de quartier. Aussi, nous avons voulu tirer les enseignements du fonctionnement des comités de quartier lors du précédent mandat, afin que ces derniers soient à l'avenir plus participatifs, plus citoyens et renforcés par la mise en œuvre d'un budget participatif, comme nous y sommes engagés pendant la campagne électorale. Les modalités de communication auprès de la population seront effectuées via les différents supports de communication de la ville, à savoir le site internet de la ville, Facebook, le MAG, ainsi que par courrier via une campagne spécifique. Nous reviendrons très prochainement devant le conseil municipal pour vous présenter ces nouveaux comités de quartier. Quant à l'action des conseillers municipaux dont la délégation est rattachée au comité de quartier, je tiens à vous rassurer qu'ils sont déjà au travail pour les Canavéroises et les Canavérois. Ils sont présents dans leur quartier comme l'ensemble des élus de la majorité dont je tiens à saluer l'engagement.
Question numéro 3 portant sur la sécurité routière. La sécurité routière est un sujet qui nous préoccupe ainsi que de nombreux Canavérois. Tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer le nom du conseiller municipal en charge de cette matière et de la sécurité au sens large ? Sur le sujet de la sécurité routière, qui, rappelons-le, était un axe fort de votre campagne, pourriez-vous nous indiquer quels sont vos projets en matière de sécurité aux abords des écoles, mais également du croisement de l'avenue Boileau et de la rue La Fontaine, ou encore l'avenue Georges et de la rue de la Liberté, la rue Aristide-Briand et tant d'autres ? Sur la rue Aristide-Briand, et notamment à hauteur du Collège Molière, nous vous demandons de bien vouloir faire installer un vrai radar afin de faire respecter les 30 km/h sur cette portion accidentogène et très fréquentée. Enfin, les pistes cyclables provisoires appelées Corona Pistes ont-elles vocation à se pérenniser ? Je voudrais d'abord rappeler que la sécurité est une compétence commune avec l'État. Mais vous dire aussi qu'il n'y a plus de conseiller municipal ou de maire adjoint chargé seul de la sécurité. C'est le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, qui détient en propre cette compétence. Il exerce avec le premier adjoint, M. Driche, en charge de la prévention de la délinquance, et de M. Storez, adjoint en charge de la tranquillité, salubrité et hygiène publique. Il s'agit donc d'un travail d'équipe. Les opérations de contrôle de vitesse, d'alcoolémie et de dépistage, de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, se font très régulièrement sur le territoire de Chennevières-sur-Marne par les effectifs de la police municipale. Des opérations communes sont également mises en place avec la police nationale et notamment la compagnie motocycliste du Val-de-Marne, avec qui nous entretenons une étroite collaboration. Les effectifs de la police municipale, lorsqu'ils sont en patrouille, interpellent et contrôlent systématiquement les auteurs d'infractions routières, comme par exemple l'usage du téléphone au volant, le franchissement de feux rouges, de stop, les vitesses excessives, la circulation des poids lourds. les croisements et intersections que vous évoquez soit n'existent pas, soit n'ont jamais fait l'objet de constatations d'incidents ou d'accidents par la police. Concernant les groupes scolaires, des patrouilles dynamiques avec mise pied à terre se font quotidiennement par la police municipale, notamment aux heures d'arrivée et de départ des enfants. Une attention particulière est ainsi observée concernant les stationnements anarchiques, les vitesses excessives, les enfants non attachés. Une surveillance est également mise en place via les agents en point école et les caméras du CSU. Si les opérateurs constatent une infraction au stationnement, ils dirigent des policiers déployés sur le terrain. Enfin, des dispositifs de protection ont été mis en place, tels que la mise en zone 30 aux abords du Collège Molière ou des bordures anti-stationnement avenue du Moulin. Je vous rappelle toutefois que la sécurité est l'affaire de tous. La mairie ne peut se substituer ou régler les comportements anarchiques ou les incivilités des automobilistes ou même parfois des parents, à proximité des écoles. Vous me demandez de façon péremptoire d'installer un vrai radar rue Aristide Briand aux abords du Collège Molière. Pourtant, vous n'êtes pas censé ignorer que la mise en place des radars automatiques est de la compétence du préfet et non du maire. Je ne vous ai d'ailleurs pas attendu pour lui en faire la demande au cours du précédent mandat par courrier ainsi qu'au président du département pour lui demander d'aller plus loin dans la sécurisation devant le Collège Molière, sachant que les aménagements de sécurité avaient déjà été réalisés pour un montant de 610 000 euros. Je ne manquerai pas, bien entendu, lors de sa prochaine visite, d'évoquer à nouveau ce sujet avec le préfet. Et je le fais aussi avec le président du conseil départemental. On l'a fait également rue des Fusillés de Châteaubriant. Enfin, concernant les coronapistes cyclables, ainsi que leur couleur jaune l'indique, elles sont provisoires et expérimentales. Étant donné qu'elles ont été installées sous la responsabilité de GPSEA, je vous invite à contacter le territoire pour savoir si elles seront pérennisées ou pas. Question 4 sur les places de parking au Bois-l'Abbé.
Les places de parking, votre question. Les places de parking vont devenir payantes pour les locataires d'une villa située rue d'Alsace dans le quartier du Bois-l'Abbé, à raison par ailleurs d'un seul véhicule par famille. Cette décision prise par 3F a été faite sans concertation avec les locataires et la somme de 10 euros a été arrêtée. Dès lors, au regard des relations nécessaires entre la municipalité et les bailleurs sociaux de son territoire, pourriez-vous nous indiquer si vous envisagez d'aider les familles concernées et si vous envisagez la réalisation de nouveaux parkings pour les familles qui auraient plus d'un véhicule par foyer? La réponse, nous ne devrions pas vous le redire, mais vous savez très bien que les bailleurs sont maîtres chez eux et que leur gestion leur incombe directement. Sur ce sujet, la responsable habitat de l'immobilière 3F a précisé qu'une concertation a bien eu lieu auprès des habitants de la rue d'Alsace. Une enquête a été réalisée du 3 février à fin mai 2020. 75% des personnes qui se sont exprimées se sont montrées favorables à ce projet qui a donc été adopté. La décision d'I3F de mettre en place un stationnement payant est due au fait que de grosses problématiques de voitures ventouses et d'épaves, le stationnement anarchique ainsi que la mécanique sauvage qui ont été constatées depuis un certain temps sur ce périmètre, créant des tensions importantes entre les locataires. Certains locataires s'étant appropriés plusieurs places de parking sans autorisation, la situation de conflit était devenue critique. Face à ce constat et suite à l'enquête auprès des locataires d'I3F, a décidé de lancer des travaux pour 23 000 euros, permettant la location de ces places de parking, traçage, numérotation avec installation d'un stop-park sur chaque emplacement. Pour précision, les deux autres bailleurs, Mille et Une Vie et Paris Habitat, installés sur le quartier, ont mis en place la même politique ces dernières années. Les places de parking résidentielles seront désormais payantes.
Question 5, relative au permis de construire. Aujourd'hui, les Canavérois s'inquiètent de voir des grues émerger dans tout Chennevières annonçant des constructions. Alors même que vous vous êtes engagé dans vos différentes campagnes électorales à vous opposer à tout développement de logements avant l'arrivée des transports en commun, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Pourrions-nous savoir quelles sont les réalisations prévues, le nombre des permis de construire délivrés à ce jour et ceux en cours d'instruction ou projets en cours de réflexion, ainsi que la proportion de logements sociaux? J'avoue être surpris par votre question quelques mois après la fin des élections. Depuis le début du mandat, le PLU est exactement le même que celui que vous aviez voté lorsque vous étiez première adjointe, Madame Diringer. Il n'a pas changé et tous les projets en cours sont des projets que vous avez donc soutenus. Du fait de l'existence du PLU. Je suis étonné que vous n'en ayez pas référé à l'ensemble de votre groupe lors de la préparation du conseil municipal avant de poser votre question. Comme vous l'avez si bien rappelé, je me suis engagé à m'opposer à tout développement excessif des logements avant l'arrivée des transports en commun, et donc avant l'arrivée du TCSP à l'horizon 2024, c'est précisément le secteur d'entrée de Ville-Nord. Ça rejoint également ce que nous avons dit tout à l'heure sur les perspectives du nombre, de nombre d'habitants, raisonnables et raisonnées, beaucoup moins fortes que d'autres villes voisines. C'est un engagement que nous tiendrons. Pour les permis de construire, on vous invite à vous rendre en mairie lors des horaires d'ouverture que vous devez connaître puisqu'ils sont publics. Je vous remercie. Je remercie l'administration pour sa présence, l'ensemble des élus, ce que j'ai fait au début.
Excusez-moi, Monsieur Barnot.
Oui.
Merci pour ces réponses. Mais,
je vous rappelle qu'il n'y a pas de débat.
Mais je ne débat pas.
Oui, mais vous avez l'air de continuer.
Mais non, mais laissez-moi terminer. Sur le précédent conseil, vous aviez refusé de répondre à nos questions puisqu'elles étaient arrivées trop tardivement et donc la réponse devait être apportée ce soir.
Vous ne les avez pas réitérées. Alors, nous pouvons...
Ah non, il n'y a pas besoin, monsieur.
Oui, c'est vrai. Alors, nous pourrons vous envoyer, si vous le souhaitez, une réponse écrite. Vous aviez déjà posé 5 questions.
Mais j'aimerais bien avoir la réponse parce qu'elles font un peu réchauffer puisqu'elles datent du
mois de juillet. Oui, elles font un peu réchauffer. Vous pouvez leur poser, je peux y répondre a cappella. Vous savez, j'ai aucune difficulté sur ces questions. Vous me posez... Oui. Bon, on peut le reprendre. Mais de toute façon, c'est des questions qui... Oui, vous pouvez la lire. Oui, je réponds.
Nous avons appris que le théâtre Roger Lafaille serait indisponible à compter du mois de septembre pour de nombreux mois en raison de travaux. Pourriez-vous nous indiquer les travaux dont il s'agit, leur durée, leur montant ? Par ailleurs, les associations réservent chaque année cette salle afin d'y organiser leur assemblée générale. Quelles sont les solutions qui leur seront proposées ? Où se dérouleront les réunions du conseil municipal ?
Vous pouvez même répondre.
Effectivement, les travaux du théâtre ont démarré au mois de septembre, doivent se terminer normalement au mois d'avril prochain. Le montant des travaux est pour l'instant, puisque les travaux viennent de démarrer, de l'ordre de 1 200 000 euros à peu près. Les associations, pour l'Assemblée générale, en général, aujourd'hui, les salles qui sont disponibles sont celles qui existent habituellement, à savoir le Fort, Jean Moulin. Donc, en fonction des disponibilités des autres salles de la commune, on a également mis à disposition les préfabriqués à côté de la mairie et où se dérouleront les réunions du conseil municipal à Jean Moulin.
Et j'ajoute sur cette question que, ultérieurement, nous réfléchissons avec la directrice du théâtre pour qu'un certain nombre de manifestations qui pouvaient avoir lieu, notamment à caractère associatif, au théâtre, aient lieu plutôt à Gerbentillon, puisqu'il y aura un parking et qu'il y aura la possibilité d'accueillir des réunions qui évitera à chaque fois de devoir déplacer les fauteuils du théâtre. C'était la seule question qui avait été posée. Voilà.
Non, il y en avait une autre sur le PLU, mais je veux bien une réponse écrite dans le compte-rendu du conseil.
On peut même vous répondre spécialement par écrit si cette question avait été posée, indépendamment du compte-rendu.
Pas spécialement par écrit, c'était une question orale, donc qu'elle apparaisse dans le compte-rendu du conseil avec votre réponse, et ça ira très bien.
Très bien, parfait. Alors donc, je vous remercie une seconde fois, et je remercie aussi les fonctionnaires. Je remercie Monsieur Ferrand pour son brillant exposé, j'en entendais pas moins. Merci à tous et bonne soirée.